Tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Beckett. Il me reste à vous remercier d'avoir passé l'après-midi avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h. Toute l'équipe de Radio Courtoisie vous présente ses meilleurs vœux pour 2007.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beckett avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 janvier 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Je me... résistant, hein.
Non, je fais comme Bastia.
Voilà.
Ça, vous connaissez l'histoire.
Arletty, oui, pas très
Jean-Pierre,
résistant.
Jean-Pierre, vous connaissez. Non, pas. Ah. Bah, bon, voilà, alors, l'économiste.
Bastia.
Arletty. Arletty, à qui le juge d'instruction à un moment.
Comment allez-vous?
Je lui dis, comment allez-vous, Bastia? Elle lui dit, pas très résistante, monsieur le juge. C'était
joli. Bastia pour Bastia.
Bon, merci, maîtresse.
Bienvenue.
Vous feriez nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé en retard, d'ailleurs.
Tiens. J'étais pas en retard, j'étais juste.
Oui, bon.
Figurez-vous qu'on est, on a été contrôlé par la maréchaussée.
Ça m'étonne pas que la tronche
avec la tête que vous avez tous les deux.
Ouais, ouais, mais non, nous avions en plus une charmante jeune fille à l'avant. C'était peut-être pour voir la jeune fille, mais enfin.
Vous avez des têtes assises sur 50 kilos de hachiche.
Non, c'est parce qu'on avait une vieille voiture.
C'est la fiancée de Jack.
Il paraît. Je ne sais pas, en tous les cas.
Ah ben l'année commence bien.
Oui.
Il a dû l'acheter au maître. En tout cas, elle est jolie comme tout, mais alors...
Elle est mignonne comme tout.
Puis elle ne tient pas beaucoup de place dans l'auto.
Non, non.
C'était pas elle qui conduisait.
C'était pas elle qui conduisait.
Alors, est-ce qu'on a dit bonne année ? Non.
Non.
Alors,
on n'a pas dit bonne année et je me souhaite une bonne santé. Je me porte bien.
Oui. C'est pas du luxe hein, de vous souhaiter une bonne santé.
C'est le vœu des auditeurs.
Alors, j'étais en forme jusqu'à ce matin et puis j'ai dormi sans chaussettes. Résultat, j'ai attrapé un rhume.
Ah.
C'est terrible. Quand même.
Vous auriez du mal à être SDF. Ah, vous n'êtes pas fait pour cette vie-là.
Ah, non.
Vous n'êtes pas fait pour le grand air.
Je suis fait pour une vie de luxe, de stupre et de volupté.
Et de volupté, oui.
Alors,
les présentations.
Les présentations. Alors, vous avez déjà entendu Victoria, qui était arrivée en retard.
Non, 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 puisqu'elle a fait l'annonce.
Alors, pour une fois qu'elle arrive à l'heure, laissez-la tranquille.
On insiste largement.
Le marquis.
Bonsoir
qui
et bonne année.
Qui a un de brocard, je ne vous dis que ça, d'une élégance, mais alors même.
C'est pour mieux brocarder le tout
oui,
Paris.
Très bien. Jean-Pierre Rondeau.
Bonsoir et meilleurs voeux aux auditeurs.
De Mégara et autres lieux découverts à marée basse.
Il a plein de papiers devant lui. Enfin, ouais, plein, ouais. Beaucoup
il
de
va nous infliger des leçons d'économie.
Ça vous permettra de récupérer.
J'en dors déjà. Goffman.
Présent.
Salut Goff.
Du Libre Journal et autres lieux découverts à Marée Haute.
Marée Haute, comment allez-vous ?
Fort bien, je vous remercie. Je devrais par imitation et empathie être malade, mais pas encore.
Oh, t'es empathie malade quand même.
C'est vrai.
Oh, c'est bien ça. Et puis votre serviteur, Serge de Becquetch, et nous attendons un peu plus tard, je ne sais pas exactement quand, mais enfin il m'a promis qu'il passerait nous voir pour vous présenter ses voeux. Bruno Gollnisch en personne.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Non, mais tout le monde est content, mais on est discret dans l'expression de notre enthousiasme. En tout cas, on l'attend. Je dirais ouais quand il sera là.
Ah, j'ai eu peur qu'il soit arrêté par la maréchaussée.
Pour faire bonne mesure, j'ai invité Matou.
Non, c'est le petit frère de Praline.
Celle-là. Alors, heureusement, comme on est encore un peu dans la période du... qu'est-ce que vous avez eu pour vos étrennes ? Un rhume. Bravo, félicitations. Donc j'avais prévu quelques disques qui sont mes favoris. Et on va en envoyer un tout de suite, si vous voulez bien, parce que ça, c'est quelque chose qui est à peu près introuvable. C'est The Legendary Jimmy Chand. Alors, en dépit du nom, ça ressemble à de la bourrée auvergnate, sauf que c'est de la bourrée irlandaise. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter. Oui, enfin, gaélique.
Mais, le technicien fait une drôle de tête, Serge. Il faudrait peut-être que vous lui donniez le disque. Non, mais ces gens-là.
Non, il a le disque. Non, mais attendez. Là, bon.
Moi, je voudrais que vous me disiez de quoi que ça cause, puisque je ne connais pas l'anglais.
Eh bien, ça s'appelle ça Gay Gordon Cock on the North. Alors, je ne vous traduis pas parce que. Off the North.
Je faisais danser ça, moi, mes élèves.
Ben écoutez donc, moi, je trouve ça très très joli. En tout cas, c'est très pecno et j'aime bien ce qui est pecno.
Bon.
Voilà. Voilà, c'était donc Jimmy Chant.
Gay Gordon.
C'est bien, non? Ça vous a plu?
Ah, beaucoup, oui, beaucoup.
J'ai adoré, moi, je me suis cru à The Last Show, comme un film qui a de...
Ah tiens, au fait, à propos de The Last Show, qui... vous avez dit ça l'autre jour, vous avez été repris fort justement par Victoria, et vous avez répondu que c'était le titre américain et tout. Eh bien non, c'est pas le titre américain, car le titre américain, ça s'appelle...
Le dernier Home Companion.
Voilà, c'est ça.
En effet, de plus en plus, on met des titres en anglais différents du titre original pour programmer les films, distribuer les films.
Parce que comme ça, on a l'impression, parce que The Last Show, tout le monde comprend, on a l'impression de parler anglais comme ça.
Ouais.
Ça reste quand même un film adorable qui fait beaucoup penser à Radio Courtoisie, les coulisses de la Radio Courtoisie du Midwest.
Où on retrouve... Radio Courtoisie, en ce moment, c'est plutôt le Far West, le Midwest.
Ils en ont parlé. Un verre d'eau, Serge, tout
non,
de suite. Mais votre verre est vide, Serge. Alors, ça fait peur quand vous le buvez quand même.
Je le plains. Alors, vous savez qu'il y a eu une histoire extraordinaire. Enfin, très drôle, c'est très drôle ou non, parce que c'est pathétique. Le maire de Taverny, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, avait fait disposer. À l'entrée de sa ville, au milieu d'un...
Un rond-point,
voilà, ouais. Merci. Bon, un gigantesque préservatif gonflé à l'hélium.
Ah, c'est amusant. Au nouveau, ça en avait mis un sur la Concorde.
Sur l'obélisque.
L'obélisque,
oui. Et alors, il y a un monsieur, c'était juste devant sa maison, alors il a trouvé que ça n'était pas nécessaire... l'embellissement du quartier, il s'appelle Alexandre Simoneau, il est sorti de chez lui... Il a mis un coup de cutter dans le...
Ah, oh, il a crevé le préservatif. C'est dangereux, c'est dangereux.
Paf.
Iconoclaste.
Alors, il a été dénoncé par un voisin.
Oh. Comme au bon vieux temps.
Alors, les flics sont venus l'arrêter. Alors, écoutez la suite. Ça, c'est Maître Valente Saint-Just qui a pris sa défense et qui écrit au procureur. Monsieur le procureur, en ma qualité d'avocat de Monsieur Alexandre Simoneau, j'ai tout d'abord l'honneur de déposer plainte entre vos mains pour l'infraction de détention arbitraire prévue et réprimée par l'article 432.4 du Code pénal à l'encontre de fonctionnaires du commissariat de police de Taverny. Le samedi 2 décembre 2006, mon client, monsieur Alexandre Simoneau, a percé un préservatif géant posé à l'entrée de la ville de Taverny. Je précise, parce que c'est Simoneau qui me l'a dit, que... Avec cette capote géante, on aurait pu offrir aux monomaniaques du bled, je crois, 45 000 préservatifs à la taille d'un homme normal, si j'ose dire. Alors, monsieur Simoneau a été convoqué pour s'expliquer sur ce geste, qui me paraît pourtant assez transparent, contrairement aux préservatifs, au commissariat de police de Taverny, le mercredi 13 décembre 2006 à 16h. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu... 11 jours au poulet pour se dire, étant donné qu'on leur avait donné le numéro d'immatriculation de la voiture et l'adresse du coupable, pour le retrouver. Ce qui nous donne de l'espoir le jour où ils nous rechercheront. Arrivé à 16h au commissariat de police de Taverny, M. Simoneau s'est entendu dire par un fonctionnaire de police que, écoutez bien, celui-ci n'avait pas le temps de l'auditionner. Je te convoque parce que j'ai pas le temps de t'entendre. Et que pour cette raison, il était placé en garde à vue. Mon client ne sera auditionné que le jeudi 14 décembre, vers 10h du matin, pendant 15 minutes, et il était relâché à midi. C'est-à-dire que... Ces enfoirés l'ont gardé toute la nuit au poste.
20h.
Je considère en conséquence que la retenue dans les locaux du commissariat de police de Taverny, M. Simoneau, c'est vrai qu'il n'avait pas brûlé 400 voitures, là, est tout à fait arbitraire et réalise l'infraction suvisée. Alors écoutez la suite. En outre, pendant sa garde à vue, M. Simoneau a été enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 1,70 m, soit 3,40 mètres carrés, avec un autre détenu. Il n'y avait qu'une seule banquette dans la cellule, et M. Simoneau a passé la nuit par terre sur le carrelage. Les fonctionnaires de police lui avaient retiré sa veste. Il était en chemise, on lui a refusé une couverture.
alors qu'il protestait contre ses conditions de détention, un fonctionnaire de police, c'est un lapsus, est venu ouvrir la fenêtre de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, alors qu'il faisait très froid à l'extérieur. Ceci me paraît constituer l'infraction de violence prévue et réprimée par l'article R625 numéro 1 du Code pénal. Et mon client dépose à nouveau plainte de ce chef entre vos mains contre les fonctionnaires du commissariat de police de Taverny.
Voilà, à quoi, hein ? Il a quel âge, ce monsieur ?
Il doit avoir nos âges.
Oui, on déjà, il commence à être fragile, alors déjà. C'est invraisemblable.
Moi, on fait ça, je meurs.
Non seulement c'est pas invraisemblable.
Ne le dites pas, parce qu'ils vont vous faire le coup.
Non, mais vous rendez compte,
non seulement...
espèce de pourri.
Et le motif pour l'arrêter, il a dégradé une œuvre d'art ou quoi?
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais non seulement c'est pas invraisemblable, mais motif, ça devient traditionnel. Il y a déjà quelques années, Alexandre Zinoviev a publié un livre où il expliquait que l'ultralibéralisme, faute d'opposition, était en train d'acquérir petit à petit, très progressivement, tous les caractères du totalitarisme. Est-ce que nous n'y sommes pas? Tout est permis contre les patriotes. Seulement, on devrait se méfier parce que Odile Bonivard, qui passait sur cette antenne à votre invitation, Serge, il y a 15 jours, j'ai eu la joyeuse surprise de l'entendre sur France Inter hier.
Alors, bien sûr. Elle a fini par avoir la casquette du préfet Mutz, qui a plus l'air d'un coin que d'un Lancheval. Il a l'air couen, comme disait
l'autre. Dans ce cadre, en oubliant le cochon, vous êtes au courant que l'Armée du Salut, une autre association, n'étant pas d'accord avec les travaux des fils de Don Quichotte, ont cessé de distribuer de la soupe, je ne sais plus dans quelle ville, et ils ont même balancé ce qui restait pour ne pas aller le donner à ceux qui étaient sous les tentes rouges.
L'Armée du Port Salut.
C'est formidable quand même, tout le monde, ça devient la guerre.
Mais c'est normal. Enfin, écoutez,
c'est le fromage est gros. Hein.
Pour dire la chose clairement, l'humanitarisme sur les SDF et tout, c'est un racket.
Voilà, donc.
C'est pas moi qui le dis, c'est ce matin sur une radio périphérique que je ne citerai pas parce qu'elle est vraiment pourrave, ou pérave, comme dirait mon ami Néné. Ils ont expliqué qu'on ne savait absolument pas où passait le fric.
Voilà.
C'est un type qui est actuellement à la mie de pain, qui a téléphoné en disant voilà. Le budget, 1 milliard d'euros par an. On sait où va le fric, dit-il. Où va le fric? On ne sait pas. Ben oui, il y a une palanquée de petites associations bidonneuses qui se goinfrent où le président est payé, le vice-président est payé, le secrétaire général s'en met plein les fouilles. L'argent sert à ça. Et les SDF, ils servent tout simplement de prétexte pour rafler le fric. Alors évidemment, quand ça se passe comme ça, quand il voit arriver un type qui, lui, se sert de ça pour soutenir sa carrière de comédien intermittent à pas variable et à jamais pas continu. C'est monsieur... Comment il s'appelle? Augustin Bolduc.
Oui, c'est ça, moi, oui.
Ils sont pas contents parce que, naturellement, ça fait une part de plus dans le gâteau. Enfin, c'est tout. Le maire de Taverny... Alors, Le Parisien, qui est vraiment un journal... On vit dans un monde de délateurs, mais c'est extraordinaire, de tordus, de pourris. Le Parisien titre, le préservatif géant crevé par le candidat Front National.
Le vilain.
Voilà, tout s'explique.
Ah ben oui, non mais là c'est déjà plus clair.
Alors, le maire dit un automobiliste s'est arrêté, pas un coup fin, etc. On a tout de suite porté plainte aux yeux d'un employé municipal qui a relevé sa plaque d'immatriculation. Il aurait dénoncé les juifs pendant l'occupation, mais maintenant ça ne sert plus à rien. Alors il dénonce les creveurs de préservatifs. L'identité de l'auteur et des faits est vite révélée. Oui, forcément, avec la plaque d'immatriculation, ça ne nécessite pas de déranger Sherlock Holmes depuis Londres. Il a dit qu'il voulait m'attaquer pour incitation à la débauche, dit le maire. S'il n'est pas d'accord avec notre prise de position, je lui prêterai une salle municipale pour qu'il puisse exprimer son opinion. Mais agir de la sorte... Cela ne sert à rien. C'est une attitude provocatrice.
Et le fait de mettre un
président... Alors écoutez la chute, parce qu'elle vaut mille. C'est le maire de Taverny qui parle, et à mon avis, il se vante. Parce qu'il faut quand même savoir que le préservatif, il doit faire à peu près 12 mètres de haut. Donc il dit, j'irai de toute façon jusqu'au bout. Il devra me rembourser le prix de mon préservatif.
Oh, il s'attaque
aux bourses. Il veut faire croire que c'est à lui. Et oui, c'est bon, en plus, il attaque. Il est un peu bêcheur, quand même.
12 mètres, ça fait rêver.
Voilà. Voilà. Bon, enfin, écoutez, qu'est-ce que c'est que ces maires? Il a dépensé, alors je sais plus combien ça a coûté, 9000 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 9000 euros. Il a dépensé, le maire de Taverny, tiens, habitant de Taverny, vous qui payez des impôts locaux.
Dans le Val d'Oise.
Dans le Val d'Oise, je serais certainement content d'apprendre que votre
maire... On connaît sa couleur, non, Pauline?
Comment?
On connaît sa couleur.
Du préservatif.
Socialo, il doit être, de toute façon...
Taverny, je crois que c'est PS.
PS, oui.
Oui, il doit être Socialo. Coco, peut-être pas, mais Socialo, ça, non, c'est bien dans la
vie. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces mecs-là? Ils sont quand même un peu... Oui.
C'est pas dans la tête que ça se passe, hein, apparemment.
Non. Ah bon, je croyais. Alors, autre nouvelle, tiens, à propos des SDF et des choses comme ça. J'ai trouvé une belle déclaration de monsieur, comment il s'appelle, Xavier Bertrand.
Ah. Ministre de la Santé.
Ah ben, j'allais le mettre au voie. J'allais dire, qui est Xavier Bertrand? Donc vous connaissez la réponse, vous êtes un bon journaliste.
Mais
Goffman,
je me crois obligé, oui, de me tenir au courant puis de le préciser.
Alors, monsieur Xavier Bertrand, ministre de ce que vous venez de dire, là, c'est-à-dire de la Santé.
Ça me concerne.
Rien que ça, ministre de la Santé. Déjà.
Ça veut rien dire.
Tout un programme.
À quoi ça sert d'avoir un ministre de la Santé? Il y a déjà des médecins qui savent rien foutre. Alors un ministre de la Santé, que voulez-vous me dire à quoi ça sert?
Ministre, c'est qu'on s'enrhume quand même.
Oui.
Voilà, exactement. La preuve, voilà, exactement. Il y a des pays où il n'y a pas de ministre de la Santé, on s'enrhume. Pas Tahiti, par exemple, il n'y a pas de ministre.
Et ministre des bains trop chauds.
Oui.
Des broyages au beurre.
Alors voilà, passer une retraite agréable sur les côtes espagnoles, accepter un poste à Londres, immigrer à Florence.
Ah,
non,
Dieu.
Émigrer, connard. D'accord, mais prière de laisser sa carte vitale avant de partir. Voilà l'un des objectifs de PFLS. Alors, pour moi, je ne l'invente pas, c'est le PFLS, ça s'appelle Projet de loi de financement sur la sécurité sociale. Mis en place par Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités. Ah, on avait oublié ça.
Ah, bah oui. Mais quand vous allez à
ministre
Florence, vous prenez la carte, mais quand vous allez à Marrakech, vous la gardez,
attendez,
non?
Non, mais justement, c'est ça le problème. Ministre de Solidarité, chargé des cellules psychologiques. Cellules psychologiques.
Ah, d'accord, oui.
Alors, il dit, c'est un décret qui ne découle que de la logique. Et alors, il dit... Il n'est pas normal que l'on ne cotise plus en France et que l'on continue à bénéficier de l'assurance maladie de l'Hexagone.
On se le dit.
Alors ça, il faudrait peut-être informer tous les gens qui viennent là. Et vous savez, quand ils arrivent à Oly ou à Roissy, ça, ça a été raconté par la directrice, je l'ai déjà dit à ce micro, d'ailleurs la directrice de l'hôpital, comment il s'appelle l'hôpital qui est derrière la gare du Nord? Vous savez ça, vous qui êtes... Rembrandt Paris, non?
Non, je sais pas. C'est
Bichard.
C'est l'hôpital Saint-Louis derrière la gare.
Non, derrière la gare. Enfin, peu importe, cet hôpital. Oui. Ils appellent ça hôpital Barbès.
Ah, d'accord.
Alors, ils sautent dans un taxi, ils disent hôpital Barbès. Ils arrivent, ouais, comme une balle. Ils se font enlever tout ce qu'ils veulent.
Oui, c'est l'hôpital Louis-Ouest.
Ouais. Et puis, ils repartent. On leur demande même pas leur nom. Ils ne payent rien. Mais ils ne payent rien, absolument rien.
Oui.
Alors donc voilà, tandis que si vous avez cotisé pendant toute votre vie, qu'à 65 ans vous dites tiens je vais aller me reposer au Baléares, boum, vous perdez tout droit à la sécurité sociale. Le mec qui a jamais rien foutu en France, il arrive avec son boubou sur la tête et ses babouches aux pieds, et tac, on lui dit mais faites-vous soigner, vous avez bien raison d'en profiter, amenez votre petite famille, on sera content de la recevoir.
Petite famille, le mot est faible.
Et alors Xavier Bertrand, il ajoute... En ce qui concerne le droit au logement imposable. Alors ça, on va en parler du droit au logement imposable.
Opposable.
Ben non, imposable, c'est ce qui est écrit, bien sûr. Imposable, regardez, j'invente rien.
Là, c'est comme les immigrés.
C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est
sorti un article un peu vite. Là.
Xavier Bertrand veut que cela devienne une réalité. On dirait que ces mecs qui sont arrivés hier au pouvoir. Hein?
Oui, en plus.
On est au pouvoir depuis hier, donc les premières choses qu'on va faire, en réalité, c'est au pouvoir depuis combien de temps?
Même pas avec les cohabitations, tout ça mélangé, ça fait pas mal d'années.
50 ans, quoi.
Oui.
Il ajoute, et il faut être ministre pour dire ça quand même, la situation actuelle des SDF est choquante. Je crains pas de le dire, c'est un mec qui connaît la valeur des mots. Au menu également les médicaments génériques. Nous avons atteint notre objectif qui était de passer à 70% de génériques sur le total des médicaments achetés. Dans certains endroits de France, cela ne marche pas aussi bien, nous allons y remédier. Je ne sais pas quoi, y remédier aux médicaments.
Nous avons les moyens.
Et alors maintenant, l'automédication. Ça, l'automédication, d'ailleurs que l'autre jour, j'ai eu le docteur Planté au téléphone. Le docteur Planté était au bord de la syncope nerveuse. Il m'a dit, vous avez entendu ? Maintenant, ils disent qu'il faut pratiquer l'automédication. Pendant 50 ans,
moi, j'ai
60 balais depuis 15 jours. Enfin un peu plus, 18 jours maintenant. Pendant 50 ans, j'ai entendu dire que l'automédication, attention, danger, il faut aller voir votre médecin. Même l'aspirine, c'est très dangereux. Vous savez pas, à partir de 13 grammes d'aspirine, vous êtes mort, etc. 14 grammes, ça va, mais 13 grammes, il faut passer. Bon. Et maintenant, d'un seul coup, Xavier Bertrand, qui a tout compris, nous dit « Lorsqu'on a mal au ventre après un repas particulièrement copieux qu'on fait à les SDF, on ne va pas voir un médecin. On prend le médicament seul. Quel médicament ?» Hein, c'est une bonne question, ça.
La magnésie bismuth.
Et alors, il ajoute. Bien évidemment, en cas de maladie, il vaut mieux aller consulter un médecin. Quand la maladie le nécessite. Alors, le mec, il est tout seul chez lui, il dit, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que c'est une maladie qui nécessite d'aller voir un médecin ? Ou est-ce que je peux essayer de me suicider tout de suite en avalant la boîte à pharmacie ?
Vous vous rendez compte, à propos de la digestion, il y a un truc extraordinaire. Vous avez...
Attention, hein ?
Non, je vais être très prudent.
Non, parce que par ces temps de gastro-entérite, il faut
voilà, non, vous avez trop bouffé, vous êtes ballonné, etc. Vous allez aller prendre dans l'armoire à pharmacie le vieux truc de famille, le charbon. Hein? Et ça, c'est épatant, ça marche très bien.
Le charbon dans la boîte à pharmacie.
Non, mais le charbon, c'est ce que je veux dire. Et seulement, vous apprenez, quand vous lisez aujourd'hui des articles médicaux, par exemple sur le sida, etc., que des gens qui sont sous trithérapie, ça peut leur arriver d'avoir un ballonnement parce qu'ils ont mangé des artichauts ou un truc. Quand ils prennent le charbon, boum, le ballonnement part, mais pendant tout le temps de la durée de l'effet du charbon, l'effet de la trithérapie ne fonctionne absolument pas à cause du charbon. Alors bravo l'automédication.
C'est l'auto-médication, L-O-T-O-médication,
voilà.
Vous êtes...
Il va falloir ouvrir les mines.
Ah ben oui, ouais. Charbon, les mines de sel déjà.
Vous avez une mauvaise mine, prenez du charbon. Dans le même temps, le ministre de la Santé veut mettre le nez...
Ah ben, de la autre chose.
Non, dans la tarification des produits. Il est inadmissible que pour des médicaments qui ne sont pas remboursés, voient leur prix doublé, voire triplé, vu que ça peut lui foutre puisqu'il rembourse pas. Et alors, naturellement, le type lui dit, il n'y a qu'à les vendre en grande surface, puisque c'est le meilleur régulateur des prix, la grande surface, faut bien reconnaître. Non, répond Xavier Bertrand sans détour, et il commente alors, ce n'est pas un produit comme les autres. Ils viennent de dire qu'il faut pratiquer l'automédication. Je vous dis que ces gens sont des cinglés. Quand je vous dis qu'ils sont fous, mais c'est grave, hein. Ils sont fous, gravement fous. Et alors, à propos des ostéopathes, nous avons redéfini et encadré le titre de cette profession. Bon. En essayant de contenter autant les médecins et kinés qui pratiquent cette discipline que les ostéopathes eux-mêmes.
Non, mais alors là, j'ai eu droit à un cours ces jours-ci.
Jean-Pierre Rondeau.
Sur ce problème, par un.
Par Jasso, non
un de, non, non, un non. De vos abonnés. Et donc, si j'ai bien compris, hein, les ostéopathes avaient une formation, donc ils avaient porté à 5 ans pour se valoriser par rapport aux médecins, et par rapport. Et donc aujourd'hui, et par rapport aux kinés. Et maintenant, les kinés, et notamment les médecins, sont montés au front en disant, mais 5 ans, ça, c'est pas bien. Et donc, on va les ramener à 3 ans. Pour que qu'un médecin puisse dire, moi, j'ai fait des études à 5 ans et l'autre pas. Voilà.
Ils ont qu'à redoubler, comme ça, ils trempent en l'ennemi.
Je salue l'ami qui m'a donné cette information.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Je parlais de Catherine Jasso, mais elle n'est pas ostéopathe, pardon, elle est éthiopathe. Dites ce que vous avez à dire.
Vous écoutez Radio Courtoisie, vous faites bien, et je vous suggère de téléphoner à un ami, à un parent, qui est à l'étranger ou dans une province reculée, pour lui suggérer, je suggère à nos auditeurs d'appeler un ami ou un parents à l'étranger ou dans une province reculée pour lui suggérer de nous rejoindre sur radiocourtoisie.com.
C'est bien, c'est très pro.
Oh là là, t'as pris des coups.
Mais vous n'avez pas donné le nom du parent en question. Le crétin.
Démerdez-vous.
Voilà. Bon. Eh bien, tout ça est fort intéressant. Alors
attends, je vous dis tout de suite.
Oui, mon petit.
Vous avez des messages, un message amical. Serge de Beckett, se soigne-t-il réellement?
Ça, on peut témoigner.
Attendez, j'ai attrapé un rhume ce matin.
Il fréquente des vrais médecins depuis plusieurs semaines, d'après mes informations.
Il n'a jamais été aussi malade.
Alors, c'est vrai.
Oui. Un auditeur informé. Derrière la gare du Nord, c'est l'hôpital Lariboisière.
Et voilà.
Et un autre politiquement formé, le maire de Taverny est socialiste et c'est monsieur Boscavert. Voilà.
C'est bien, Boscavert. Alors, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure qui m'a fait hurler de rire? Ah oui, il y a un film qui sort qui est une histoire de chevaux.
Ah oui.
Et la réalisatrice s'appelle Guignabaudet.
Guignabaudet, oui, oui.
Je pense que c'est très drôle, mais moi, bah, c'est bien.
Ça, je l'ai raccourci, non, c'est ça.
Laissez-la parler.
Alors, je peux continuer mes messages. D'autant plus que c'est du pan sur le Beckett, ça. Continuez. Pourquoi ne dites-vous pas les 100 demi-fils de... Les 100 domiciles fixes au lieu de dire SDF.
Alors c'est pour gagner du temps.
C'est une question de jugeote.
Moi je veux bien, mais je peux dire aussi la Société nationale du chemin de fer français.
Et
la Société de France.
Quand j'entends Serge Beckett.
Et puis la SS, simplement, là je continuerai à dire la SS parce que c'est un petit plaisir dont je refuse de me priver.
La Sécurité sociale?
Oui, bien sûr, je ne parle pas de la.
Alors, quand j'entends Serge Beckett à chaque émission. Dire que nous vivons dans un monde pourri. Je voudrais bien qu'il se rappelle que lui aussi vit dans ce monde.
C'est le L'Oréal de Majesté.
Je dis, nous vivons dans un monde pourri.
C'est le L'Oréal de Majesté, vous êtes
nous. Bien sûr.
Alors, question. Alexandre Simoneau est-il le fils du chef de chœur Michel Simoneau?
Notre relation n'est pas suffisamment intime.
Et le cousin du journaliste du Monde, Philippe Simoneau. On peut faire l'annuaire comme ça?
Je ne sais pas, je vous poserai la question.
Pratiquer la simonie.
Oh. Parlez-nous des décisions, voilà une question pour M. Rondeau. Parlez-nous des décisions du tribunal administratif à l'égard de la soupe aux cochons.
Pourquoi ce Rondeau?
Pourquoi moi?
Je suis pas administratif.
Non, le juriste.
C'est plutôt spécialiste de la chorba que la soupe au cochon.
Je peux en parler parce que j'ai été maire adjoint aux affaires sociales.
Voilà, je sais.
Vous avez envie de dire l'autre jour.
Tout à fait dans les coups.
Non, parce que ça entraînerait une polémique avec nos amis. Donc
on y a fait allusion.
Attendez, mais non, moi je considère que les SDF sont des SDF, d'ailleurs on le voit quand on les regarde, sont des gens qui ont vécu de graves malheurs, et je le reconnais, mais qui sont qui font un choix de vie, parce que en tant que maire adjoint aux affaires sociales, j'avais une population, et notamment d'immigrés par exemple, qui prenaient une chambre dans un hôtel borgne un peu autour de Paris, c'est-à-dire un hôtel où on loue la chambre au mois, qui valait, c'était en francs à l'époque, qui valait de l'ordre de 2000 francs. On avait le RMI qui était de l'ordre de 2000 francs, et on avait l'aide au logement qui était aussi de l'ordre de... Bon, j'arrondis les chiffres, mais de l'ordre de 2000 francs. Et donc, bien sûr, moi, je n'aimerais pas vivre comme ça, mais on peut vivre hors de la rue aujourd'hui alors on pourrait se dire que avec les avantages sociaux, mais on pourrait se dire que bien sûr il y a des gens qui ne sont pas bénéficiaires des avantages sociaux parce qu'ils ne sont pas français légalement et venus légalement en France, mais curieusement ceux-là on les voit pas dans les rues.
Je me permets de compléter le propos de Jean-Pierre Rondeau qui commente en fait une information que j'ai donnée tout à l'heure d'une façon allusive et peut-être obscure. Donc il y a 15 jours, on recevait Odile Bonivard pour SDF, Solidarité des Français, qui distribue la soupe aux cochons et qui est persécutée et même violemment persécutée par le préfet de police de Paris.
Mais ça c'est normal parce que c'est quand même assez dégueulasse de distribuer de la soupe aux cochons alors qu'il y a tellement d'êtres humains qui meurent de faim.
Elle émettait une réserve sur ce que dit M. Rondeau.
Voilà.
Et moi je voudrais corroborer ça. J'ai un ami qui m'est cher, qui s'est fini depuis une quinzaine d'années, qui était alcoolique, etc. Bon, bref. Et qui vivait dans la rue. Sa maman lui payait une chambre d'hôtel en se disant, au moins comme ça. Et ben non, pendant 15 ans, au pied de l'hôtel, il a dormi dans les cartons.
Pendant des années, il y a eu devant, quand Minute était 75... qu'est-ce que je raconte? Avenue Marceau. 32 Avenue Marceau. C'est 32, je ne sais plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait sur le banc qui était devant le journal un jeune type qui était clochardisé complètement. Et tous les jours, on voyait un monsieur extrêmement bien qui s'arrêtait en voiture et qui sortait, qui donnait un peu d'argent à ce type et qui foutait le camp. Et on a ce monsieur très bien qui s'arrêtait dans son automobile à pétrole. C'était un général de l'armée française, général en retraite de l'armée française, qui apportait là un peu d'argent à son fils, qui avait choisi la cloche, qui était hétéromane. Ça se sentait d'ailleurs quand on sortait du journal, on était étouffé par les effluves des terres. Et le gars voulait absolument pas rentrer chez lui. De temps en temps, il disparaissait pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et on le voyait revenir relativement pimpant et fringant, parce que son père l'avait carrément enlevé et il l'avait foutu certainement dans une institution, ou un hôpital, ou une clinique. Et le gars repiquait au truc. Voilà,
ce que je voudrais dire, c'est que le travail que font ces gens de la soupe aux cochons est admirable, parce que ce sont des gens qui sont moralement...
J'ai pas encore pu en donner les dernières nouvelles, mais je vais le faire.
Je voudrais juste dire que je ne dis pas qu'il ne faille pas aider, mais pour d'autres raisons que celles qui sont prétendues.
Donc le troisième essai va être le bon. L'événement quand même assez considérable qui s'est produit lundi dernier, c'est que le tribunal administratif de Paris, quelques auditeurs peut-être n'ont pas entendu parler, n'ont pas reçu cette nouvelle, a débouté, ou plus exactement a reçu la plainte de l'association SDF de Odile Bonivard, et que le préfet de Paris est renvoyé dans ses buts. Et le lendemain, hier mardi, donc une distribution de soupe aux cochons discriminatoire d'extrême droite, comme l'ont annoncé tous les gros médias, a été parfaitement réussi devant la gare Montparnasse. C'est quand même une victoire que les bénéficiaires de la soupe aux cochons fassent exprès d'être clodo ou pas. C'est quand même une victoire pour notre courant de pensée.
Voilà, ce qui était très amusant, c'était d'entendre effectivement les radios expliquer que cette soupe était d'extrême droite. Ils matraquaient ça à longueur de journée, enfin à longueur de journal. Et l'effet, c'est tout simplement, pour le type qui écoute la radio, c'est de se dire, ah bon, tiens, l'extrême droite fait des distributions de soupe gratuites, c'est pas des types si mal que ça.
Et ben voilà.
Donc il faut remercier les gens de France Inter. Pardon.
Ben France Inter, France. Un coup de mousse au préfet.
France Culture et tout ça. Et puis, je voudrais d'ailleurs en profiter de l'occasion qui m'est offerte et du micro qui m'est confié, pour remercier nos amis de France Culture qui m'attendit aujourd'hui, nous ont assuré une publicité extrêmement sympathique.
Pour quelle émission?
Sous la forme, je sais pas, ce matin il paraît. À quoi sert le CSA, ça s'appelait. Et en gros, ils ont expliqué que il fallait d'urgence que le CSA réagissent contre Radio Courtoisie, parce qu'ils se tenaient sur Radio Courtoisie des propos qui étaient intolérables. Et donc maintenant, nous savons que Radio Paris, la radio de la délation, a retrouvé ses beaux jours. Ça s'appelle simplement, ils ont changé de nom, ça s'appelle France Culture. Et si vous voulez avoir des dénonciations de résistants à la pensée unique, eh bien, vous écoutez France Culture le matin, et France Culture vous explique quelles sont les radios qu'il faut streng verboten, autrement vous irez sévèrement puni.
Si vous aimez les apocopes, certains l'appellent France Q. Oh, pardon.
Encore une cochonnerie, ça, les apocopes, non?
Attendez, bon, j'ai encore un message.
Allez-y.
487 voitures furent incendiées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Combien d'incendiaires ont-ils été arrêtés et mis en prison? En cage?
Ils ont déjà arrêté Simoneau qui a crevé.
Mais justement, à l'instar de ce monsieur de Taverny. Réponse 1, pendant 24 heures, mais indifférent. Donc il y a eu.
Ils ont dit que c'était bien, c'était une
Simoneau et l'autre. Ceci étant.
Vous aviez.
Fusillé, ceci étant continué et défendé, moi je dis ce que j'ai écrit, qui est écrit, ceci étant continué et défendez nos valeurs et les vôtres. Voilà. Bon,
c'est bien lire, défendez nos valeurs. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est au niveau des incendies de voitures, c'est qu'on ne compte que la voiture à laquelle on a mis le feu.
Mais celle pas qui brûle à côté, tout. On ne la compte pas, oui, ça c'est.
Je ne savais pas.
Moi je suis tout à fait partisan des incendies de voitures, parce que autrement, Non, écoute, non, mais attends, je vais vous dire pourquoi. C'est une question, tiens, ben, on va parler d'économie.
C'est parce que vous avez des actions AGF et AXA.
Non, j'ai pas d'action. Je suis pas très actionnaire, moi.
Plutôt réactionnaire.
Plutôt réactionnaire. Non, parce que c'est vrai que de brûler les voitures, ça fait fonctionner l'industrie automobile. L'industrie automobile. Et d'ailleurs, c'est un système qui est bien foutu. L'industrie automobile, c'est la plus grosse consommatrice de main-d'œuvre immigrée. La main-d'œuvre immigrée, elle va se loger dans les cités, d'où les jeunes sortent pour brûler les voitures. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi les jeunes brûlent les voitures, c'est pour donner du travail à papa.
Oui, c'est pour assurer l'avenir.
Et ils mettent le bazar dans les grandes surfaces pour faire embaucher le cousin comme vigile.
Le cousin comme vigile, voilà.
C'est mignon.
Bah oui, non, mais c'est de la, la solidarité communautaire, c'est ça.
On va... Commençons l'année avec un gros éclat de rire. Voici un extrait de programme télé. 13h, journal. 13h35, météo. 13h40, grand jeu de Noël. 13h45, trafic info. 13h50, Fantomas contre Scotland Yard. Avec Jean Marais, etc. Fantomas invente un impôt sur la fortune, véritable taxe sur la vie, et assassine les payeurs récalcitrants. Pour tous.
Je peux rajouter quelque chose hein?
Ah ouais, c'est bon, bon,
j'ai reçu un message de Nicole Guiraud. Nicole Guiraud, elle est connue par une photo. C'est une fillette pendant la guerre d'Algérie qui a été blessée. Dans tous les livres, dont celui que j'ai édité, sa photo existe. Elle a une jambe amputée. Et Nicole Guiraud, donc, qui est une femme bien sûr adulte aujourd'hui, m'a adressé un message pour me faire savoir que jeudi prochain, le même gouvernement qui nous interdit de célébrer les morts d'Oran ou qui interdit à la DIMAD de célébrer les anciens de l'OAS, le même gouvernement donc de M. Sarkozy d'ailleurs, puisque ministre de l'Intérieur avec Mutz comme préfet, et bien sur Antenne 2, jeudi à 11h, il y a une interview des poseuses de bombes d'Alger. Et, voilà. Et le mal que ça peut faire à cette personne et à toutes celles qui ont été victimes des bombes de...
C'est inimaginable. Enfin, à propos de Mutz, d'ailleurs, il a encore du souci à se faire, parce que je ne sais pas si vous êtes très au courant des zodiaques en général. Non. Que ne vous intéressez pas à l'astrologie. Oui. Eh bien, le 18 février 2007, on entre dans l'année du cochon de feu, l'année chinoise du cochon de feu. Donc il va y avoir de 15 jours de réjouissance chinoise.
Dans Paris.
Dans Paris, avec forte distribution de cochons. Je pense que le flic Mutz, il va avoir du boulot. Là, s'il veut interdire aux Chinois de distribuer leurs cochons, il va falloir quand même qu'ils se lèvent tôt matin. Parce que les Chinois, je ne sais pas s'ils vont aimer beaucoup. Ils vont se mettre en pétard.
Bien voilà. Le groupe Flo, on l'a déjà dit, mais c'est le moment de le répéter, a impunément mené une campagne dans tous les restaurants de sa chaîne, intitulée « Dans le cochon, tout est bon ». Aucune réaction du préfet.
Comment peut-on tolérer une chose pareille? On va écouter un peu de musique pour se remettre.
Somebody loves me, I wonder who, I wonder who she can be. Somebody loves me, I wish I knew. Who she can be worries me. Every girl who passes by I shout, hey, maybe you were meant to be my loving babe. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you. Every girl who passes by I shout, hey, maybe you were meant to be my ever-loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe, maybe it's you.
Ben oui, on enchaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu.
Somebody loves me, ça veut dire quoi, Serge? Traduisez, enfin, c'est
un... J'en ai pas la moindre idée. Alors là, somebody loves me, je sais pas, ça veut dire...
Il y a le corps dans tout ça.
Oui, quelques corps aiment moi.
Oui.
Ouais, ça doit vouloir dire quelque chose comme ça. En En tout cas, c'est un Italien qui chante ça.
Oui, un mafioso.
Sinatra.
Ah, monsieur Sinatra.
Franck. J'aime bien, moi.
Oui, moi aussi.
Moi aussi.
Ouais, bon, ben, on est trois.
The Voice.
La voix.
Ouais, oui,
hein. Je dis ça pour nos auditeurs. Qui
nos concurrents de TSF 89.9 ont passé trois quarts d'heure de Sinatra hier soir. Eh bien, à ma grande surprise, j'ai parfaitement toléré le médicament.
On ne s'en lasse pas. Alors donc, j'avais dit qu'on parlerait du droit au logement opposable, comme le pouce.
Ça veut dire quoi? Je comprends pas.
Alors, ça veut dire que si vous n'avez pas de logement,
oui,
vous allez voir le maire et vous lui dites, si vous ne trouvez pas un logement, je vais vous poursuivre. Hein. Alors,
à la mairie du 18e, ça marche comme ça depuis des années. Poursuivre dans la rue avec des couteaux, c'est dans ton
voilà.
Logement.
Alors, ça y est. Alors, Delannoy vous dit, c'est pas la peine de me poursuivre, joli garçon comme vous.
Oui, je vous trouve. Je l'ai vu tout à l'heure à l'enterrement d'Anne-Marie Carrière, il m'a pas offert d'approche.
Non.
Non.
Est-ce que je peux dire pourquoi, je pense?
Allez-y.
C'est un peu barbu quand même. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Malheur au barbu.
Le système pileux ne lui convient pas.
Et alors, donc M. Georges Fenech a déposé un projet de loi, enfin une proposition de loi, puisque c'est un député qui...
Encore.
Instituant... Oui, mais ça aussi,
excusez-moi,
on va en parler.
Serge,
non, mais ça c'est...
Sarkozy, on a à 15 lois contre la délinquance en 4 ans. Alors, non seulement la délinquance maintenant est hors la loi, mais la pauvreté aussi, extinction du paupérisme après 20h.
Après 10 heures du soir. Il y a un dessin très très drôle sur le net, je crois que c'est sur... Non, je ne me souviens pas, je ne vais pas me lancer dans le numéro, parce que, enfin l'adresse, parce que je ne la trouvais pas.
HTTP, barre de fraction,
non,
barre de fraction.
Et en tout cas, c'est très drôle, c'est Sarkozy qui dit, voilà, j'ai fait je ne sais pas combien de lois depuis que je suis ministre de l'Intérieur, ça ne sert à rien, mais ça me grandit. Alors, il est debout sur une pile de dossiers. Voilà.
C'est drôle.
Donc, alors, vous allez voir le système de le droit au logement opposable. Vous allez donc, ça veut dire que vous avez le droit d'avoir un logement.
Et ça, bon. C'est l'obligation qu'on me donne un logement.
Voilà. Bon. Non, vous avez le droit d'avoir un logement.
Oui.
Donc, autrement dit, ils sont obligés de vous donner un logement, mais naturellement, s'ils en trouvent.
Puis est-ce qu'on doit le payer?
Alors,
ça après.
Une fois que vous êtes dedans, évidemment, c'est une autre paire de manches, parce que si vous débrouillez bien, on ne peut pas vous expulser. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le gars va porter plainte contre le système, on dit qu'il va porter plainte contre le maire. Ou contre le préfet.
Non, d'abord contre l'État.
Et l'État, c'est qui?
Chaque collectivité choisira si elle veut en être maîtresse.
Attendez, voilà. C'est pas gagné d'avance.
L'État, c'est qui?
Ben oui, c'est ça.
L'État, c'est nous.
Alors, moi, je paye mon loyer, je paye mes impôts. Mes impôts sont censés servir à financer des logements sociaux. Alors, on me dit... Vous n'avez pas dans votre ville assez de logements sociaux, puisque c'est 20% le minimum, donc vous êtes prié d'accueillir un immeuble de 15 étages à côté du vôtre, dans lequel on va mettre des gens...
Issus d'une...
À la place de Chirac. Non, à la place de... Quand Chirac disait... Chirac, il n'aurait pas supporté, il aurait encore gueulé contre le bruit et l'odeur.
Eh bien sûr.
Bon, moi pas, parce que moi je ne suis pas raciste, mais lui. Il n'aurait jamais accepté. D'ailleurs, à l'Élysée, il n'y a personne. Parce qu'il faut dire ça aussi, tous ces gens qui sanglotent, qui vont pleurnicher sur les bords du canal Saint-Martin, je suis sûr qu'ils pourraient facilement héberger un ou deux sans logis. Moi, j'en héberge deux.
Enfin, c'est vrai.
Bon. Ils pourraient certainement se débrouiller pour trouver de la place.
Comme mettre des tentes dans le parc de l'Élysée.
Voilà. Bon.
Plus d'un million dans le cas des gens que vous hébergez, Serge. Il y a plus d'un million de Français qui sont chez des amis ou chez des parents et qui n'ont pas de logement propre.
Et alors, qui est-ce qui va payer une fois qu'ils auront gagné leur procès à l'Élysée? C'est encore nous.
Bah oui.
Mais, alors, autrement dit, on paye des impôts pour notamment la recherche médicale. Mais il faut casquer au Téléthon pour payer la recherche médicale.
Les trucs dans la rue.
Ensuite, il faut payer pour construire des logements sociaux.
Vous payez pour emprunter les autoroutes alors que ça devrait être financé par...
Alors, je ne sais pas si ça va durer très très longtemps. Moi, si je me laissais aller au présidentiel, je vote Le Pen.
Ben justement, je voulais vous demander la permission de citer Jean-Marie Le Pen à propos du droit au logement opposable. Il a déclaré ce matin, et alors on va sans doute avoir un commentaire éclairé du camarade Rondeau en attendant le camarade Gollnisch, il a déclaré ce matin qu'il refusait de signer cette charte qui succède à la charte sur l'écologie de Nicolas Hulot, que tous les autres politiques se sont empressés de signer parce que, a-t-il dit, ce droit au logement serait opposable au droit à la propriété, qui est un droit fondamental, constitutionnel.
C'est une des observations que je voulais faire. J'en ai quatre à faire, si vous me permettez. La première, c'est que nous sommes dans un système totalement communiste et sous un gouvernement UMP.
Mais c'est normal parce que il faut dire une chose maintenant. Enfin, on a encore le temps de le dire. Chirac est communiste. Oui, Chirac a toujours été communiste. Oui, et il l'est encore, puisqu'il a dit « Je n'ai pas perdu les idéaux de ma jeunesse ».
Et il n'y renonce pas.
Et je rappelle que quand on a raconté, au début de sa carrière, non, il n'a jamais été communiste, il vendait un peu l'humain à la porte sur les marchés et tout, et l'appel de Socorro. Mais ça, c'était les militants les plus actifs.
Chirac a un adversaire aujourd'hui qui s'appelle Sarkozy. Sarkozy est le président quand même de l'UMP, et c'est les députés et sénateurs UMP qui vont voter cette loi. Donc, système communiste. La deuxième, c'est que c'est une folie, parce que si on ne bloque pas, en plus, l'immigration, c'est une folie complète. Parce
vous avez vu que ça vient devant le Parlement fin janvier, ce qui veut dire que ça va encore être préparé.
C'est pour les élections.
Avec un marteau ici.
La troisième chose me ferait plutôt plaisir, c'est quelques amis de Chirac qui ont bénéficié de HLM à la ville de Paris peuvent quand même peut-être s'inquiéter, parce que ça va s'accompagner quand même d'une mise à plat et en tout cas d'une réflexion sur l'attribution des logements sociaux. Et je pense qu'il y a peut-être quelques amis de la mairie qui vont avoir des problèmes. Et la quatrième, c'est que pour les gens qui ont... Allez, c'est là que je rejoins notre ami. Pour les gens qui sont propriétaires, c'est une catastrophe. Parce que malheur à celui qui aura un logement vide. Il est évident que celui qui attend pour des tas de raisons ou pour faire, il se verra par un préfet ou par l'État ou par un maire qui se fera taper sur les doigts au niveau du tribunal parce qu'il n'a pas trouvé un logement, ben, il y aura réquisition. Et c'est quelque chose de catastrophique.
Quant à l'OPAC et les HLM, là, je pense que ça n'intéresse pas.
L'OPAC, c'est magnifique.
Ça veut tout dire.
C'est le rêve.
Mais alors qu'il est, là, tout ça, les histoires de logement, ça n'intéresse pas le maire de Paris, puisque maintenant, Paris est devenu un village de tentes, il n'y a que ça qui l'a vu.
Tiens, à propos des tentes, je peux vous lire un message.
Oh non, ça va mal tourner, arrêtez.
Non, ce sont des tentes Décathlon à 60 pièces environ, à 60 euros la pièce environ. On voit la marque à la télé, au journal de 20h. Imaginez la publicité gratuite pour Décathlon et au prix de la seconde à l'heure d'une grande écoute. Décathlon ne profiterait-il pas de la situation ?
Bien sûr que oui.
On pourrait faire pareil avec Zodiac. Hein.
Vous rappelez-vous que le père Werenfreund distribuait de la soupe aux cochons lui aussi, et on l'appelait le père Rollard.
Exactement, le père Rollard.
Il n'a jamais été inquiété. Autre époque, autre mœurs.
C'est-à-dire que le père Werenfreund, il fallait quand même se lever assez tôt matin pour l'embêter. Hein.
Et alors,
il était d'un caractère moyennement avenant.
À propos de l'affaire de l'automédication, c'est tout à fait cohérent. Si les Français prennent un médicament qui peut être dangereux pour leur santé, ça fera des morts. Et donc, des retraites en moins à payer pour la Sécu.
Ben voilà. C'est vrai, au fait, je n'ai même pas pensé.
Et alors, une auditrice qui a été charmée, ou peut-être un auditeur, on ne me le dit pas, qui a été charmée parce que, à l'initiative de Daniel Amish, j'ai regardé sur Internet les cérémonies de Noël au Vatican. C'était une merveille. Pas de danse tribale, ni de musique techno. Rien que du grégorien. On se serait cru à Saint-Nicolas.
Ben, c'est normal, en fait.
À comparer aux obsèques aujourd'hui même d'Anne-Marie Carrière, monsieur le marquis.
Alors, on va en parler tout à l'heure, peut-être.
Un numéro de musical.
Non, je voulais lire une proposition d'un auditeur qui me paraît fort bienvenue. Il propose un jeu de société qui en plus rapporte de l'argent.
Oh, ouais.
Alors le jeu s'intitule Éliminons les cons.
Un vaste programme,
aurait dit de Baudrillard. Non, il n'y a rien de grossier ou de violent. Il ne menace en rien l'intégrité physique des membres de notre gouvernement. Il s'agit au contraire d'un amusement de société assez innocent et de bon ton. Chaque participant parle comme à son habitude, mais doit éviter la syllabe « con » à chaque fois qu'elle survient naturellement dans son discours. S'il la prononce par inadvertance, il doit mettre un euro dans la cagnotte. Les autres participants incapables d'identifier une phrase prononcée dans le respect des règles du jeu contribuent également de leur vol. Les fonds ainsi accumulés servent au choix à des généreuses libations au financement de notre chère radio. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je voudrais ajouter une petite touche personnelle. C'est il faut remplacer la syllabe en question par une autre ou deux ou trois autres syllabes. Par exemple, on peut dire Sarko ou Chirac. Ou Sego, Sego gratulation. Vous voyez, c'est amusant, non?
Autant de cons qui n'en ont ni le charme ni la profondeur. Vous écoutez Radio Courtoisie.
C'était une pièce qui.
C'est manceau, quoi.
Pas exactement, il a l'esprit large et profond, ce qui n'est pas une qualité pour un con. Voilà. Vous avez été entendu, mon cher Goffman, car notre.
Mais ami, que fait le CSA?
Mais attends, tu verras ça demain.
Notre ami Renaud Dourges envoie ses voeux depuis la Guadeloupe à toute l'équipe. Et alors, cette espèce de. Je dirais pas quoi, il est quand même assez gonflé parce qu'il ajoute. Malheureusement, nous n'avons ici pas très beau temps.
Et nous,
pauvre
alors
pépère. Pauvre pépère, il doit faire 30 degrés, mais il y a peut-être un peu de brune.
Trois gouttes d'eau.
Ah, bon. Il y en a plein. Voilà.
Un peu de brume et beaucoup
enfin,
de brune.
On lui fait toutes nos amitiés à Renaud. Voilà. Alors, le projet du relogement de Sévu.
C'est vite dit.
Oui. À mon avis, ce serait ça aussi.
J'ai entendu à la radio que la mise en place allait demander au moins 7 ou 8 ans.
Oui, c'est ça. Hein?
Non, c'est là. Ça sera en.
Deux quadragénats.
Enfin, il faut rappeler que le droit au logement est d'ores et déjà inscrit dans la loi, mais c'est comme d'habitude. Nous avons plus de 500 000 textes de loi actuellement que nul n'est censé ignorer, mais on ne peut pas en appliquer 10, on ne peut pas appliquer le décalogue.
Ah. Oh. Ça, pour un agnostic, c'est quand même assez joli.
Je reste fidèle et de l'an, fidèle comme le dogue au maître, le lierre au tronc et les cosaques à porogue, au steppe et au décalogue.
C'est très très beau. Goffman est athée, Dieu merci.
C'est tout de suite pour la loi, ce sera tout de suite pour les personnes en grande difficulté, comme une femme mal logée, une femme seule, etc., avec des enfants, ou tous les cas difficiles seront tout de suite, et pour le reste, c'est en 2012.
Bon, ça va. D'ici là, je crois qu'on sera. On aura trouvé d'ici 2012 un petit logement.
On perd la chaise.
Voilà. Les SMS qui sont devenus un moyen privilégié d'envoyer ses vœux, ça vous inspire un commentaire, non?
Moi, je l'ai essayé. À chaque fois que j'en envoyais un, ça marquait échoué. Pas réussi à en envoyer un seul, alors c'est réglé. Je vais continuer avec les cartes de vœux des chevaliers de Malte. Ça a de l'allure.
Et là, j'ai une information. Bah oui. J'ai une information spéciale pour Goffman qui va y être sensible. Vos amis de France Télécom, mon cher Patrick. Annonce qu'Orange a passé le cap des 3 500 000 clients haut débit. Au début de l'année, bien sûr. Il s'était fixé cet objectif il y a 2 ans lors du lancement de la 3G. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que la 3G et au demeurant, je m'en tamponne, mais 3 500 000 clients d'Orange, ça doit vous faire plaisir, ça. Ils vont peut-être vous rembourser.
C'est dans le jus, là.
Violence scolaire, les professeurs en première ligne. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de ce début d'année. Maintenant, on peut taper sur les profs. On peut cogner, chef, oui. Un commentaire, non?
Non, j'ai pas écouté. En fait, j'ai mon téléphone qui vibre dans la poche. Ah, alors j'étais.
Pour ça, vous l'avez posé sur.
Pas écouté.
Et là, placé où c'est, ça fait l'effet d'un pacemaker.
Les violences scolaires, les professeurs en première ligne.
Ben, c'est bien fait pour eux.
Non. Alors, voilà, c'est ça l'esprit de corps.
Non.
C'est la jalousie des instituts pour les profs, à l'égard des profs.
Ils ont laissé tomber la discipline. Et ben voilà, il ne fallait pas les mettre en rang. Il ne fallait pas mettre de notes parce que ça leur faisait.
On la voit bien, la fasciste discipline. Les chiffres collectés par le logiciel Signa, créé en 2001 par l'Éducation nationale, montrent que les actes de violence dans les établissements scolaires visent de plus en plus le personnel enseignant.
Ah bah oui. Bah oui. Ils rentrent pour enseigner, sortent enseignants, ça c'est sûr.
Oh,
très bien.
Admirable.
On passera en deuxième semaine. Oui.
Messieurs de Olmeta.
Cafeteur.
Le CNES va publier 30 années d'archives sur les ovnis. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça. C'était.
Il jouait du piano debout d'ailleurs, non ? C'est pas celui-là.
Non. Non, pourquoi pas...
Marie-France Gans.
Oui. Dans nos amis, on a un monsieur qui connaît bien ça, les ovnis.
Ah oui, 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 non, c'est, il joue pas debout, il joue sans solfège, c'est pas du tout la même chose.
Oui.
Mais il peut s'asseoir.
Il s'assoit sur le solfège,
en l'occurrence. Bon, là, on est en train de se moquer
d'un grand artiste, Pierre Marie.
Bah, c'est un excellent pianiste, ouais. En tout cas. Alors là, un excellent pianiste.
C'est ce que je dis.
Non, mais vous dites ça d'un air, comment dit-on, sarcastique.
Sarcastique.
Je voudrais simplement faire une petite parenthèse à propos des images de l'exécution de Saddam Hussein.
Ah oui.
D'abord parce qu'il faut quand même reconnaître que ce bonhomme, quoi qu'on puisse penser de lui par ailleurs, il a été dans la mort d'une dignité, je sais pas, pour ceux qui ont vu les images,
ouais, là, c'est
pas une fiotte.
Hein. Ouais.
Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un député israélien qui avait dit, ah, ça y est, on va encore m'accuser. Bah tant pis, je suis fini. Qui avait dit, il est mort comme un homme brisé, en pleurnichant, etc. Mais c'était avant qu'il sache qu'il y avait des images. Et maintenant qu'on a vu les images et qu'on a vu ce bonhomme affronter la mort avec une dignité...
On a eu le son aussi, Serge. Il a manifesté cette dignité au milieu d'une petite foule
qui
hurlait des insultes.
Et alors, du coup, le gouvernement irakien, c'est-à-dire les loufias des Israéliens, ont jugé utile d'identifier le type qui a filmé la scène. Parce qu'évidemment, ça fout en l'air tout le système. Le projet, c'était quand même de dire qu'il s'était traîné en gémissant au pied de ses bourreaux. Manque de bol, ça marche pas. Alors, il va falloir trouver le gars qui a mangé le morceau.
Il faut se méfier des téléphones.
Et surtout quand il sert à prendre des photos. Il faut se méfier aussi d'appareils photo qui servent à téléphoner. Enfin, il faut se méfier de tout. Mais en tout cas, bravo. Et ça m'a fait penser à ce grand journaliste français qui a été fusillé à la Libération, qui s'appelait Suarez, et dont Pâques Cousteau, le frère du commandant, raconte dans ses mémoires d'un condamné à mort que quand il est arrivé devant le peloton d'exécution, l'officier qui commande le peloton a voulu lui bander les yeux. Et Suarez lui a dit « Ah non, ça je veux regarder ça jusqu'au bout ».
Mais dans le même genre, moi je n'ai aucune sympathie pour, mais souvenez-vous de l'exécution de Ceausescu, son épouse. Eh bien, ils avaient de la dignité, ils ne sont pas traînés par terre en demandant pardon.
Il y a un autre point commun entre ces deux exécutions expéditives, c'est qu'il s'agissait avant tout de faire taire.
Attends, des témoins, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Sa dame ne pourra plus jamais nous dire de qui il tenait ses obus au gaz moutarde et au gaz sarin.
Et vous me permettrez de penser aux quatre fusillés de l'Algérie française, ouais. Et notamment la boucherie avec laquelle on a tué De Gaulle.
Ouais. Et puis, je voudrais simplement faire remarquer que nos ministres qui se précipitent dans les mosquées chaque fois qu'un habitant des cités se fait rectifier, généralement d'ailleurs dans un règlement de compte, ce qu'on découvre après avoir accusé les racistes en général, quand le gendarme a été tué par une voiture conduite par... Alors, ouvrez les guillemets, des gens de la communauté, des gens du voyage. Parce qu'il ne faut pas dire des gitans, parce que les gitans, c'est pas chic. Il faut appeler ça des gens de la communauté, des gens du voyage. Mais voyage, c'est un mot trop précis. Alors, on pourrait même dire des gens de la communauté, des gens qui se déplacent, hein, ou qui changent de lieu. Eh bien, Madame Alliot-Marie n'a pas pris la peine d'aller visiter la veuve. Alors, chose à foutre. Elle a à ne pas se présenter à la présidentielle en espérant que Sarkozy la récompensera avec un strapontin. Je dis pas avec un Marocain parce que son mari serait pas, enfin son serait pas content. Voilà. Libération nous dit qu'à l'école, jadis, on voulait faire pompier. Je sais pas quelles écoles il fréquente, mais il dit qu'à l'école, on voulait faire pompier ou maîtresse.
Voilà. Ça va ensemble?
Oui, j'étais à l'école moi-même, pas longtemps, mais enfin, j'ai pas souvenir que, de ce genre d'occupation. Bien. Et maintenant, nous allons procéder, si vous le voulez bien, à un commentaire rétroactif de l'actualité. Parce que quand on est réactionnaire, ben on va réagir, bien entendu. Et quand même, le meilleur moyen d'être réactionnaire, c'est de parler du passé. Donc, du passé ne faisant pas table rase, on va parler donc du passé récent, c'est-à-dire de l'année 2006. Et on va revoir certains événements. Je vous propose d'apporter à cette revue des événements de 2006 les commentaires qui vous paraîtront...
Nos lumières, n'ayant pas peur des mots.
Voilà, apportez donc vos lumières, oui. Comme dit l'autre. Mais avant, on va quand même placer ça sous l'invocation du Saint-Esprit en vous faisant entendre une musique qui va... C'est pas tout à fait Frank Sinatra, mais c'est aussi une voix quand même qui, si j'ose dire, tient la route. Il faut reconnaître quand même que c'est un petit peu autre chose que la Star Academy. Hein.
Il s'agit de...
Ah ben, Basso Profondo. En Basso Profondo, c'est un disque absolument admirable. Russian Basso Profondo, je suis désolé, je suis obligé de le lire en anglais, mais je peux le traduire en français. C'est les extraordinaires graves des basses russes profondes qu'on appelle octavistes, car elles chantent jusqu'à l'octave au-dessous de la tessiture habituelle. Donc c'est des barytons, c'est même basse, c'est un octave au-dessous de la basse. Spécialité de l'art vocal russe, souvent comparé aux basses d'un orgue. Effectivement, ça fait tout à fait penser à ça, à cette...
C'est de la liturgie orthodoxe, Serge, je pense.
Oui, finement observé pour un agnostique.
Un petit détail touchant sur la liturgie orthodoxe, le vin de messe orthodoxe, c'est ce qu'ils appellent du Kagor, qui est la version locale du vin de Cahors, qui n'a rien à voir avec ni en cépage, ni en mou, ni à aucun autre égard avec le vin de Cahors, mais qui a été, le titre a été confisqué donc par les vignerons russes, comme Champagneskoï, comme Saint-Émilion et toutes sortes d'autres... Voilà.
Kagor, c'est comme Goffman.
Voilà, comme Victor Hugo.
Hugo. Mm. Voilà. Alors ça, c'est un disque, je crois qu'on peut se le procurer dans certaines bonnes disqueries. C'est un disque... Harmonia Mundi. Ah bah oui, Harmonia Mundi, c'est facile. Harmonia Mundi, russe, 28-81-58. Je vous le recommande, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tout à l'heure, on écoutera, justement pour Bruno Gollnisch qui fait son arrivée, un autre morceau de ce même disque. Bonsoir Bruno Gollnisch, comment allez-vous ?
Bonsoir Serge, je vais très bien, je vous présente tous mes voeux.
Vous avez un costume absolument magnifique.
Je crains que...
Il doit aller très bien avec votre voiture rouge.
Imagine.
Et le brushing que vous oubliez.
Je vois que vous avez une saine activité, vous écoutez les chants de la liturgie slavonne.
Voilà.
Je ne connais rien de plus beau que l'hymne des chérubins.
Ah, mais vous allez peut-être nous en chanter un petit morceau, non ?
Si je kérouvimi.
C'est bon,
c'est quand même le ding shai
no bra.
Maladiette.
Maladiette. C'est le seul avec le chef qui arrive à l'improviste comme ça. Et ex-cathédra. Non, pas ex-cathédra.
Ex-abrupto.
Même. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Et de recherche.
Comment on dit sans accompagnement musical.
Ah, a cappella.
A cappella, voilà. Bien,
c'est le et toute la liturgie orientale, c'est a cappella, justement.
Serge, ah, bah ça, oui, bien sûr.
Bah, voilà, bien sûr.
Voilà. Alors, mais vous arrivez très très bien parce que c'est juste au moment où nous allions commencer une petite revue.
Sur Radio Courtoisie.
Sur Radio Courtoisie, oui. Une petite revue de l'actualité, non pas de l'actualité présente, mais de l'actualité passée, c'est-à-dire de l'année 2006. Et on fait un commentaire libre. Le commentaire est libre ici.
Enfin, profitons-en.
Soigneusement encadré quand même par des règles que je ne vous enseignerai pas. Vous avez payé. Non, vous n'avez pas encore payé pour les connaître.
Votre dette à la société, Bruno Gollnisch.
Non, je suis en. Mon exécution a été différée.
Bon.
Je vais faire une petite parenthèse. J'ai reçu un livre, le livre le plus fantastiquement. Inutile, superflu de l'année. Le truc que, vraiment, pour acheter ça, il faut... Je pense qu'il faut être tombé sur la tête.
De la famille.
Ça s'appelle « Peut-on réformer la France ?» Jusque-là.
Bonne question.
Bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Mais où les choses se gâtent, c'est quand on constate ce que c'est. Ce livre, c'est un livre de débat entre Fritz Bolkestein et Michel Rocard. Alors, j'ai un ami actuellement immigré en Afrique pour des raisons qui ne regardent que lui, qui a l'habitude de dire « Je m'en fous d'une force ». Alors, vraiment, l'opinion de Fritz Bolkestein et Michel Rocard sur le fait qu'on peut ou peut ne pas réformer...
Bolkestein n'a pas été présent de la commission.
Bah, c'est la directive. L'homme de la directive.
C'est l'homme de la directive.
Alors,
il n'en est pas le seul responsable. On lui a fait porter le chapeau.
Mais
il est un rouage dans la machine.
Il y a quand même des phrases qu'il ne faut pas négliger de lire. C'est parce que c'est imprimé juste sur la page de droite et la page de gauche, elle est toute blanche avec juste une phrase au milieu. Ou le contraire, des fois c'est la page de droite qui est... Bon, enfin bref. Vous m'avez compris. Alors, monsieur Fritz Bolkestein dit « Mieux vaut l'intérêt économique que la passion politique ». C'est intéressant, ça, parce que c'est effectivement la clé de la pensée
libérale.
Alors, Michel Rocard, je note en souriant que ce que vous venez d'appeler une politique de droite au Danemark a été menée par M. Poul Rasmussen, Premier ministre social-démocrate. Ça me fait penser à la vieille blague que racontait Berger sur les plaisanteries des physiciens nucléaires. Un type qui fait une équation qui fait remplir un tableau de 15 mètres de long sur 8 mètres de haut. Et à un moment, il manque une virgule et toute la salle éclate de rire. Voilà. C'est formidable. Ces gens-là s'amusent beaucoup entre eux. Monsieur Bolkestein, votre approche, cher Michel, est classiquement macroéconomique. Or, faire de la macroéconomie, c'est agréable pour le peuple. C'est plus facile. C'est souvent keynésien. Cela injecte de l'argent dans le système. J'ai, quant à moi, une approche microéconomique. Cela fait mal, cela tâche un peu, mais c'est là que les choses se jouent, poil au jou, bien entendu. Voilà.
Oh ben, merci
c'est intéressant
beaucoup.
Quand même l'opinion. Alors, il y a ça qui est très joli. Ça, c'est vraiment la phrase la plus belle de tout le livre. J'ai été un anticommuniste primaire. C'est Bolkestein qui parle.
Ah bon.
Oui, quand même. Enfin, non, c'est pas Rocard. On peut aller loin dans le ridicule, mais pas jusque-là. Et ce qui m'a frappé et agacé, chez ces fameux intellectuels parisiens dont je réprouve l'utilité en matière économique, alors je pense qu'il a voulu dire dont je réprouve la nullité en matière économique, c'est qu'ils aient ouvert les yeux aussi tard au sujet du communisme.
Et que répond Rocard, là?
Je ne vais pas lui leur répondre.
Il prend l'air absent.
Il ne faut pas quand même abuser des bonnes choses.
Oui, j'allais le dire, c'est-à-dire, vous faites la promotion d'un livre inepte, j'espère que vous accepterez de considérer comme un des événements de l'année 2006 que 5 collaborateurs du Libre Journal, que d'aucuns traitent de bulletin paroissial, aient publié un livre cette année, que vous permettrez...
Le jour où il a dit ça, Michel, il n'a pas perdu sa journée, tiens.
Et que vous permettrez... Oh, Philippe de Saint-Robert l'avait dit avant lui, seulement la différence, c'est que Philippe de Saint-Robert s'en est excusé dans la foulée avec beaucoup de gentillesse et d'humilité.
Heureusement qu'il n'est pas au pouvoir, celui-là, parce que on est dans les caves.
Je les emmènerai faire un tour à la cave assez vite. Donc, vous serez également d'accord pour qu'on fasse la promotion de ces 5 livres, tous remarquables, au point de donner l'adresse où on peut les commander à un prix dérisoire par correspondance. Vous êtes d'accord?
Je suis tout à fait d'accord.
Bon, tu profites de la faiblesse du chef.
Oui, bon, c'est un message d'injure pour le Goffman.
Non,
bon.
Si, je suis...
Alors, vous êtes d'accord, Bruno, pour qu'on fasse une petite revue de l'actualité 2006,
De laquelle d'abord, c'est vous la puissance invitante. Et...
Oui, mais enfin, ça, je n'ai pas forcé de participer, mon groupe.
Je n'ai pas pour habitude de dicter mes volontés à mes hôtes.
Ah, Serge, vous allez être content. Effectivement, je suis mouché par un auditeur et je ne peux rien répondre et je ne peux que lire. Monsieur Goffman, cher Monsieur Goffman, vous mentez, point d'exclamation. Jean-Marie Le Pen n'est pas le seul politique à s'être opposé au droit du logement opposable. Il a été précédé par Philippe de Villiers. Défendre votre chapelle est un droit. À propos, Bruno, j'attends toujours mon chèque. Hein, j'espère que vous allez vous secouer un peu. Faire circuler des mensonges est une infamie. D'une certaine façon, vous ne servez plus la France en agissant ainsi, mais votre clan, c'est loin d'être suffisant. Et c'est signé... Ah oui, mais on ne doit pas donner les noms. Poincaré, je crois que c'est en Bretagne. Alors, moi, je m'attendais... Encore tout à l'heure, le marquis nous a fait comprendre qu'on allait se retrouver aux mines de sel dès que Marine lui en aurait confié la direction.
Non, mais attendez, nous, ici, dans cette émission, on est payé pour faire la pub à Le Pen. La pub à Le Villiers, c'est Gurien qui est payé pour la faire. Il faut quand même le savoir.
Il faut marcher sur les plates-bandes des autres.
On est payé avec des roupies de chansonnettes, mais quand même, mais c'est bien clair. Bon, n'importe Yannick, qui a suffisamment d'humour, c'est bien que je plaisante. On n'est pas payé, on fait ça pour la beauté du geste.
Ah, mais vous aussi, vous avez un communiqué de...
Oui, c'est pour ça que je dis
Philippe
ça,
de Villiers, très éprouvé par les accusations de viol d'un de ses fils contre un autre.
Bon, ça, c'est répugnant. Ça, je sais pas... Pourquoi on parle de ça? C'est une saloperie immonde.
C'est pour défendre mon clan.
D'ailleurs, il ne faut pas blaguer avec ça, parce que c'est une histoire, à mon avis, d'une gravité extraordinaire, pas du tout pour ce qui est raconté. Mais quand on voit les gens qui sont derrière, il faut savoir que l'avocat qui agite la merde, il n'y a pas d'autre mot autour de cette histoire, c'est un avocat C'est l'avocat de l'ancienne suppléante de Sarkozy à Neuilly. Voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. Ça a été l'avocat également de M. Schueller dans l'affaire Schueller. Donc, dont le fils Schueller avait dénoncé son père comme étant une canaille, etc. C'est un homme étrange. C'est un avocat qui a des activités quand même assez mono-orientées, je dirais. Voilà, j'en dirai pas plus, mais parce que c'est un sujet qui me déplaît profondément. Mais effectivement, ben, Villiers est d'accord avec Le Pen. Ça ne fait que reposer le problème.
Bah ouais.
À quoi sert-il d'avoir deux candidats qui sont d'accord sur tout ?
Il y en a un qui est président et puis l'autre premier ministre. Je vais faire un ticket comme vous avez proposé la semaine dernière.
Qui est-ce qui a proposé ça ?
Un auditeur, vous n'avez pas entendu ?
Non, c'est les auditeurs qui m'écoutent. C'est pour moi qui écoute les auditeurs.
Par ma voix.
Exercice difficile.
Et quand c'est moi qui parle.
Alors, le 1er janvier 2006, une trentaine à une quarantaine de jeunes gens, répartis en petits groupes de 5 ou 6, étaient en train d'importuner les voyageurs, passant de voiture en voiture dans le TER, qui transportait environ 600 personnes entre Nice et Lyon, à faire des agressions du train Nice-Lyon du 1er janvier. C'est intéressant cette histoire parce que, d'une part, on en a parlé beaucoup sur l'instant, puis après on n'est pas revenu.
Après 15 jours de réflexion, c'est ça qui est intéressant. Oui. On vient de nous dire que tout allait très bien, Madame la Marquise, et qu'il n'y avait pas eu d'incident grave. Il faut attendre 15 jours pour être informé de ce genre
d'incident. Ensuite, on nous a menti sur la réalité des faits. Ensuite, on nous a expliqué que bon, c'était pas si grave que ça, alors que c'était extrêmement grave. Il s'agissait pas d'importuner, il s'agit d'une véritable attaque rançonnée avec tentative de viol et tout et compagnie et tout. Mais le plus frappe, moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est le fait que je pense souvent à ça. En France, tous les ans, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. On voit des tas de gens se réunir autour des monuments aux morts des villages avec force écharpes tricolores, couronnes, drapeaux, musique, chants patriotiques et tout, qui expliquent que non, de là, si les nazis reviennent, ils vont comprendre leur douleur. Et ça va pas se passer comme ça, parce qu'on s'est fait avoir une fois, on se fera pas avoir deux, et on verra ce qu'on verra. Mais quand 600 personnes se trouvent face à une trentaine de merdeux, alors là, tout le monde se planque sous les sièges, et ces gens-là vous disent après, Pétain était un salaud. Pétain a signé l'armistice, il a baissé culotte devant l'Allemand. Alors évidemment, Pétain était un salaud, je suis bien d'accord avec eux. Seulement, on peut pas dire qu'ils sont bien placés pour porter ce genre d'accusation, étant donné qu'ils se conduisent exactement de la même manière, et même pire. Parce que la différence quand même entre les 30 merdeux et l'armée allemande, bah, c'est la différence qu'il y a entre 30 merdeux et une armée de métier, quoi. Hein, je sais pas si je me fais bien comprendre. Et que c'était l'armistice était un armistice négocié, alors que la seule chose que peuvent négocier, qu'ont négocié les types qui étaient dans ce train, c'est tu peux tenter de violer ma fiancée, du moment que tu ne mets pas une paire de claques, je t'embêterai pas.
Il faut quand même dire, Serge, comme on le dit à chaque fois, que si les gens se défendent, c'est eux qui seront inculpés et emprisonnés s'ils cassent un ongle à un voyou étranger.
Ben, ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est que
Bruno Gollnisch.
Ceci aurait dû interrompre l'expérience du trajet préférentiel qui est donné sur quel critère le tarif préférentiel qui est accordé sur quel critère on ne sait exactement d'un ou deux euros pour le trajet Nice-Lyon. Moi, à l'époque, j'ai fait demander par le Front National de la Jeunesse, dans une lettre fort courtoise qui a été envoyée à la direction de la SNCF et au Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai fait demander des billets à ce tarif. Et ces jeunes gens ont dit que, ben, désireux d'assister à une de nos manifestations, ils se rendraient de Lyon à Nice ou de Nice à Lyon. Et que, il n'y avait aucune crainte à avoir avec eux. Ils se tiendraient parfaitement bien. Ils n'importuneraient pas les voyageurs. Et ils ne détérioreraient pas le matériel. Et qu'ils demandaient, simplement à bénéficier, étant jeunes, eux aussi. Mais jeunes français, c'est peut-être une circonstance aggravante, je sais pas. qui demandaient à bénéficier du même tarif. On attend toujours la réponse, de l'un comme de l'autre. Et la seule réponse a consisté à rééditer la même opération criminelle, mais cette fois en kikiné, pour ne pas dire plus, d'honnêtes pères de famille qui sont des policiers, qui sans doute sont là pour être mobilisés quand il le faut, mais là, on en a mobilisé des centaines pour assurer la sécurité de cette opération. Bon, alors qu'il est évident qu'après après une affaire comme celle-là, la réaction saine, c'est de dire, ben, c'est fini, il n'y aura plus de billets offerts par les collectivités locales.
Si on peut leur offrir des billets d'avion,
voilà, oui,
des billets de bateau.
Pas dans le même sens, oui.
C'est... On peut citer en contre-exemple le centre de Los Angeles, qui est toujours, à ma connaissance, 10 ans après les émeutes qui l'ont incendié et ravagé, les Américains, les autorités américaines l'ont laissé en l'état. Pour délivrer sans doute un message du style, vous savez brûler, vous savez casser, est-ce que vous savez reconstruire ?
Et apparemment non, ils ne savent pas.
Apparemment non. Non.
C'est ça. Non.
Affaire suivante.
Oui, affaire suivante. En 2006, le 1er janvier 2006, le président Jacques Chirac a profité de son allocution traditionnelle pour présenter ses vœux. Pour prôner le retour à un patriotisme moderne. Vous vous souvenez de ça ?
Non.
Ben, il avait prôné le retour à un patriotisme moderne. Et là, le dernier coup, il a fait part du fait qu'il aimait passionnément la France. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est un scoop. Mais c'est intéressant de savoir que ce type aime passionnellement la France, parce que s'il le disait pas pour le jour où il présente ses vœux, on pourrait assez facilement en douter, étant donné ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire maintenant depuis 11 ans, 15, bientôt 12 ans, enfin au pouvoir comme président. Alors, en fait, on a l'impression que c'est ce qu'on appelait dans le temps le représentant placier. Il passe tous les ans, il vend ses brosses, il dit « Mais les brosses de l'année dernière sont les mêmes que celles de cette année, mais elles doivent être un peu usées, je vous revends un nouveau jeu de brosses patriotiques. »
Puis il en vend à l'étranger, des brosses.
Et alors, pour vous montrer à quel point l'actualité change, en 2006, les traditionnelles violences urbaines, les traditionnelles, comme on dit en Alsace, qui accompagnent la nuit de la Saint-Sylvestre, ont causé la destruction par incendie de 425 véhicules contre 333 l'an dernier. 382 interpellations ont été effectuées, 25 000 policiers avaient été mobilisés pendant la nuit. Alors moi, je trouve que pour ce prix-là, ils peuvent laisser les policiers réveillonner chez eux, de toute façon, ça ne pourra pas être pire. Mais, comme dit Sarkozy, on progresse tous les ans, hein, ça va de mieux en mieux. En réalité, tous les ans, on voit exactement la même chose se passer sans le moindre problème. Là, on en a la preuve. Quand on regarde ce qui se passe le 1er janvier, il y a 400 voitures qui brûlent, chiffre officiel. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un chiffre qui est totalement inventé, puisque c'est toujours le même. Ils prennent même pas la peine d'améliorer leurs mensonges.
C'est quand même... Vous citiez ironiquement, je le révèle aux éditeurs, un commentaire, une légende de photo dans le Parisien d'hier, 2 janvier. On voit une voiture brûlée et la légende c'est « Les années passent, mais les traditions demeurent à Strasbourg, qui a vu 28 véhicules incendiés la nuit de la Saint-Sylvestre. » Certains des incendiaires avaient 11 ou 12 ans.
Ce qui est fâcheux, c'est le mot tradition. Et j'entendais, je ne sais plus sur quelle radio périphérique, un historien, il y a quelques jours, expliquer qu'au Moyen-Âge, au moment des fêtes, on brûlait les chars, etc. On commence, ça y est, à trouver déjà une connotation historique à tout ça. Donc,
C'est dans la tradition. Voilà, la tradition, c'est aussi la coupure de 7h30, et on va la respecter.
2 minutes.
Non, Franck n'est pas d'accord, et c'est lui qui commande.
Silence.
Donc, alors lisez votre message, on va voir si vous arrivez à le faire avant la coupure.
Je viens de passer Noël et le premier de l'an en Sicile, moi qui suis catholique, mais plus très croyant. Je me suis surpris à croire de nouveau. Des crèches partout, tous les 50 mètres, d'énormes crèches dans les églises, les chapelles, certaines sur des collines entières, des prières, des messes partout, pas une mosquée. La Sicile est à 100 km de la Tunisie. Quelle bouffée d'air frais ! Un fidèle auditeur.
C'est peut-être justement ce qui explique, c'est la proximité qui explique l'absence, ils n'ont pas besoin.
Il faut revenir au moment de la Semaine Sainte. Il aura les mêmes émotions.
Oui, en mieux même. Nous faisons donc la coupure, et puis nous écouterons, après cette coupure, le deuxième morceau que je vous ai promis tout à l'heure, qui est fort beau aussi, mais qui est un morceau folklorique. Eh bien, nous revoici à l'antenne, mon cher Goffin. Alors, je suis obligé de vous céder la parole parce que autrement, vous allez...
Je vais faire une crise de nerfs si je ne peux pas faire la promotion donc des 5 livres publiés par 5 collaborateurs du Libre Journal imprimés au cours de l'année. Le Scarabée Samouraï de Marie-Claude Monchot, qui est une grande dame de l'édition internationale, illustratrice et maintenant poète japonisante. Je vois un large sourire fendre la face de notre invité Bruno Gollnisch, japonisant lui-même, je crois.
J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et à lire les haïkus, les poèmes courts, très expressifs, de Madame Monchot, en effet. Une esthétique tout à fait japonaise.
Elle a du talent, hein,
celle-là. Oui, absolument.
Donc ce recueil, le Scarabée Samouraï, on peut l'obtenir pour 15 francs.
15 euros. On a gagné, non ?
15 euros, bien sûr, par chèque postal ou bancaire à édition Les Trois Orangers, 13 avenue de Saint-Mandé, 75 012. Paris. Ah non, frais de port offerts jusqu'au 31 décembre. Bon, alors envoyez 17 euros.
L'éditeur, si on fait savoir qu'on est auditeur de Radio Courtoisie et lecteur du Libre Journal, ça...
Alors maintenant quelques livres, encore 4 livres dont Bruno Gollnisch ne pourra ou ne voudra peut-être pas dire du bien. François Brignot, si Mussolini était compté. Bon, alors ceux qui ne connaissent pas François Brignot. Ou même Mussolini se précipite et envoie là encore 15 euros franco à auto-édition FB 41 rue des Tenrolles 92 210 Saint-Cloud.
Ce qu'il faut dire, c'est que si Mussolini était compté, c'est pas une grosse biographie, c'est un joli petit bouquin, d'ailleurs superbement illustré, avec des photos que je connaissais même pas du regretté Duce, et une couverture en couleur du Duce dans sa position favorite.
Faisant signe à un taxi.
Brignot s'est mis dans la peau de faisant signe à un taxi, c'est ça. S'est mis dans la peau d'un grand-père, il n'a pas eu grand mal, qui raconte Mussolini. La première phrase, c'est parle-nous de Mussolini, grand-père, tu l'as connu. Et alors, Brignot répondit non, j'aurais pu. Dans la Grande Guerre civile 39-45, nous finîmes par faire partie du même camp, celui des vaincus. Mais pas au même grade. Il était chef des armées italiennes, j'étais soldat du maréchal. À ce titre, je me trouvais en prison lorsqu'il fut assassiné le 28 avril 1945. Il avait 62 ans, j'allais en avoir 26. Voilà. Et après, il raconte. Et c'est un très très bon résumé, c'est bien écrit. Enfin, comment on peut dire ça de Brignot, c'est évident.
Alors, je cite encore les mémoires de notre divin marquis ici présent, qui s'intitule « Mais ceci est une autre histoire ». Alors, ce qui est merveilleux, c'est que le marquis, il peut le faire, il peut le dire. Il est en mesure de nous dire qu'il faut envoyer 28 euros aux éditions des écrivains, rue Saint-Honoré à Paris. Il lui manque juste le numéro de la rue. Alors, les auditeurs consultent l'annuaire électronique ou papier. Donc 28 euros franco aux éditions des écrivains, rue
Société des écrivains. Saint-Honoré, mais j'ai pas le numéro en tête.
Bon, voilà. Alors les éditeurs et les auditeurs se débrouillent. Je suis obligé de me citer moi-même parce que personne d'autre ne veut le faire. Donc
ça, pas de danger alors.
Je publie. Ah, Bruno Gollnisch s'approche du micro. Il va peut-être se décider à dire.
Non, parce qu'il veut pas. Il veut pas être désagréable. Il veut pas dire tout le mal qu'il pense.
Il pense de cet ouvrage misogyne qui s'intitule Bat ta femme tous les jours. Et donc on se procure en envoyant 10 euros franco, chèque à mon ordre, chez SDB, 4 place Francis.
C'est le moins cher de tous, hein.
Mais oui.
J'ai beaucoup ri, mon épouse aussi.
Bien. Voilà. Merci, enfin, Bruno.
Il paraît que quand le japonais rit, c'est pas forcément bon signe.
Il rit jaune. Oui, on place.
Très bien, voilà, bravo. Ah,
et alors, last but not least, traduisez pour Victoria, s'il vous plaît.
Et puis mettez
le dernier, mais non l'ultime.
Voilà, je vais les mettre, qui a disparu d'ailleurs. Vous sortez là de votre poche, Victoria, cette cernée.
Il n'y avait pas assez de sous dedans.
Donc, en dernier lieu, à tout seigneur tout honneur, en dernier lieu, mais ça n'est pas le moindre, voilà la traduction, le catalogue des nuisibles de Serge de Bekech. Je cite la petite pub, elle est gentille dans le Libre Journal. D'Aliende à Wiesenthal, des bougres aux racailles, des brocanteurs de la mémoire au camé du foot, de Harry Potter à Saïd, Samy à Fatima et compagnie, en passant par Doust, Delanoë, Mekachera, Chirac, plus quelques inattendus, 50 portraits au vitriol de bestioles malfaisantes et autres racailles. 25 €, port compris. Chèque à l'ordre de Serge de Bekech, 4 place Francis, 75-010, Paris.
Ouais, j'achète.
Ouais.
Oh, moi, je l'ai volé.
Attendez, vous n'avez pas lu.
Moi aussi, je l'ai volé sous son nez.
Moi, j'ai lu.
C'est pas la meilleure opération que j'ai faite pour me faire des amis, je vous le dis tout de suite.
Ah bah, hein.
De douce tâche. D'ailleurs, vous le cachez.
Mais, oui, d'ailleurs, vous en aviez tellement dans ces milieux-là, Serge, oui, que c'est...
triste. Alors, je vais essayer de... Pardon. Réparer ce dommage qui m'est porté, manque d'amis, en suivant l'avis d'un auditeur qui dit, écoutez, vous êtes bien gentil avec votre rétrospective de 2006, mais pour dire comme votre ami, on s'en fout d'une force rare, et on préférerait entendre Bruno Bollnisch. Alors donc, cher Bruno, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est vous qui allez être de service pendant une heure et demie à partir de
parler.
Voilà, donc
sur Radio Courtoisie.
À vous. Non, là j'ai sous les yeux un magazine qui s'appelle Le Chêne, magazine du Mouvement National Républicain, avec une très belle photo qui, je dois le dire, me remplit de bonheur et d'un bonheur hilar. Parce que, hilar, je signale au préfet Mutch que c'est pas la peine d'envoyer ses flics, ça ne rêvera qu'à soupe au cochon. Nous voyons sur cette photographie Jean-Marie Le Pen souriant, Bruno Maigret souriant, Madame Maigret souriante et Madame Le Pen souriante sur le perron de Montretout. Et Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen se serrant la main. Alors si je me souviens de certains événements qui se sont passés dans une autre existence, et qui m'ont valu, qui ont failli me valoir, étant donné la position de bon sens que j'avais adoptée.
Les mines de sel.
Bah, les mines de sel, oui, mais surtout la tente rouge sur les bords du lac Léman, parce que pour un peu, le journal était mort. Je dois dire que je suis ravi de voir que finalement j'avais raison 6 ans avant tout le monde, comme d'habitude. Donc je voudrais vous demander tout simplement ce que vous en pensez à titre personnel de ce rapprochement, de cette... Est-ce qu'on peut d'abord vraiment parler de réconciliation ?
Oui, je crois. Ça n'est pas si facile que cela, pour être très franc, parce que on ne peut pas faire que le passé n'ait pas existé. Et je pense que l'opération de 98 a été très douloureuse, qu'elle n'a pas été bénéfique à la cause nationale, indiscutablement. Elle a été la cause de beaucoup de déchirements, certainement aussi d'un retard dans notre progression. Mais bon, le problème, c'est de voir comment on envisage l'avenir. Moi, j'ai dit très clairement, je considère que le Front National est une organisation hiérarchique. Il y a un président qui se trouve être également le candidat national et absolument indiscutable compte tenu des résultats qu'il a déjà obtenus, ne serait-ce que pour cette raison-là, mais aussi pour ses qualités personnelles considérables, pour l'ancienneté de son combat, pour la fermeté de ses convictions, pour le courage et la lucidité qu'il a manifesté. Et par conséquent, c'est ce président et ce candidat qui se trouve être la même personne, c'est à lui en l'occurrence de décider. Je crois que Jean-Marie Le Pen est un homme loyal. À partir du moment où il avait lancé un appel à l'Union patriotique, qu'il aurait pu ne pas lancer, qui ne présente pas évidemment que des avantages. Mais à partir du moment où il a lancé un appel à l'Union patriotique, ça n'était pas pour repousser du pied ceux qui venaient pensant saisir la main tendue. Bon, par conséquent, c'était une exigence d'abord de la loyauté. Parce que s'il avait lancé ce thème de l'Union patriotique, et puis s'il avait dit ensuite, ben non, moi je ne suis pas intéressé par tel ou tel ralliement, je fais passer les griefs, serait-il légitime que j'ai avant l'intérêt national et avant l'engagement que j'ai pris, je pense que on aurait été fondé à le lui reprocher. Par conséquent, c'est très bien ainsi. Puisqu'il l'a décidé, et ça n'est pas sans difficulté. Je comprends évidemment ceux de nos amis qui se sont trouvés un temps dans des circonstances extraordinairement difficiles, extraordinairement douloureuses, qui ont été privés des maigres moyens qu'ils avaient pour mener le combat, par exemple dans leur département, et qui ont eu le sentiment quand même d'être d'être poignardés dans le dos, qui ont eu un certain nombre de griefs. Je comprends qu'il soit toujours difficile d'oublier cela, peut-être d'ailleurs de part et d'autre, parce que tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais complètement blanc, complètement noir d'un côté. Je crois que la démonstration qui a été faite, là, c'est celle de la primauté de l'intérêt national. Le pays vit, notre pays vit une situation extrêmement douloureuse, extrêmement grave, avec un système politique qui gère la décadence et qui ne gère que cela, et qui gère très mal par conséquent, mais qui défend ses intérêts d'une façon absolument féroce. Il faut combattre ce système, il faut arriver à proposer aux Français autre chose, et pour cela, nous avons besoin absolument de tout le monde. Moi, je souhaiterais, il était question tout à l'heure de M. de Villiers qui avait, l'agitation là, des associations gauchistes en matière de logement, les mêmes positions que Jean-Marie Le Pen, ou Jean-Marie Le Pen les mêmes positions que Philippe de Villiers. Ça n'a aucune importance, ce sont des positions, j'en discutais avec Jean-Marie Le Pen hier soir, ce sont des positions de bon sens. Bon, et qui vont effectivement à contre-courant, bien sûr, du concert de lamentation que l'on entend aujourd'hui et qui est totalement dépendant du discours subversif. Bon, Villiers et Le Pen ont les mêmes idées. Moi, je souhaiterais que Philippe de Villiers participe à l'Union patriotique.
Ce serait son intérêt.
D'autres encore.
Ce serait son intérêt, d'ailleurs, puisqu'il est tombé de 4 à 2% dans les sondages. Vous l'avez observé, je pense.
Oui. Oui, oui. Mais indépendamment de cela même.
On peut penser que c'est dû largement à la fin de non-recevoir assez brutale qu'il a opposé à l'Union patriotique.
Sans doute, et puis au fait qu'il n'y a pas d'espace, et puis au fait aussi que le discours a toujours été un peu ambigu, parce que Philippe de Villiers dit aujourd'hui je ne suis plus dépendant de l'UMP en Vendée, par conséquent je peux prendre mon envol, par conséquent je peux rompre avec l'UMP, avec le système, j'irai jusqu'au bout de mes convictions, il n'y aura pas d'accord avec Sarkozy, etc. Et puis on apprend dans le même temps qu'il y a un accord déjà de retrait mutuel pour les élections législatives, ce qui évidemment fragilise son discours, indiscutablement.
Est-ce que vous avez entendu dire, Bruno Gollnisch, que depuis quelques jours ou quelques semaines, M. Sarkozy souhaite empêcher par tous les moyens la candidature de Philippe de Villiers parce qu'il aurait découvert que, contrairement à ce qu'il est comptait, Villiers lui prendrait des voix à lui et non pas au Front National.
Je l'ai entendu dire, en effet. Je n'ai pas d'éléments personnels de vérification, mais je l'ai entendu dire et d'ailleurs, hier encore, j'en discutais avec Jean-Marie Le Pen. Oui, cela n'est pas du tout impossible.
Moi, je suis convaincu que ça explique l'histoire sordide dont Patrick parlait tout à l'heure. Je ne crois pas du tout au hasard dans ces matières-là, et bon, je suis absolument convaincu qu'il y a une Chirac-juration.
Oui.
Contraindre. Oui, parce qu'on a décidé que la syllabe con, on la supprimait. On la remplaçait maintenant.
Et est-ce qu'ils vont pas le refouler dans les bras de Jean-Marie Le Pen, ces idiots-là?
Ah ben, ça, c'est leur problème.
Non, mais c'est à Philippe de Villiers qu'il appartient de se déterminer. Jean-Marie Le Pen a donné une interview au journal Minute dans laquelle il laisse la porte ouverte. L'Union patriotique, c'est un appel qui est fait coram populo, c'est un appel général à toutes les bonnes volontés, pas seulement d'ailleurs les formations politiques ou les hommes politiques, mais toutes les forces vives, comme l'on dit, les associations, les familles, les personnes, les compétences, de venir nous rejoindre parce qu'il n'est que temps.
Alors, reste toujours la question des signatures, où en êtes-vous?
Nous ne donnons pas trop de chiffres parce que d'abord ces chiffres sont extraordinairement imprécis. Il faut savoir que pour le moment aucun candidat n'a aucune signature.
Bien sûr.
Ce que vous savez bien sûr, Serge, parce que vous êtes un observateur particulièrement averti, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, je l'ai constaté, y compris des journalistes professionnels qui ne le savent pas, en ce sens que n'est donné comme signature valable que celle qui est donnée sur le formulaire officiel. Les formulaires officiels ne sont envoyés au maire à raison d'un exemplaire par maire qu'à compter du décret de publication des électeurs. Et M. Mazot, président du Conseil constitutionnel, a suggéré que ce décret soit publié à une date telle qu'il aboutirait, le nouveau décret, s'il était pris sur les recommandations du Conseil constitutionnel, à diviser par 3 le délai légal de recueil des signatures. Ce qui est véritablement scandaleux, inique. J'ai écrit au nom de Jean-Marie Le Pen à Mazot pour être reçu par lui ou par un membre du Conseil constitutionnel, ils sont tout de même 9, ou à défaut, comme ça avait été le cas la dernière fois, par un fonctionnaire du Conseil constitutionnel. Il y a un secrétaire général auprès duquel j'avais conduit la dernière fois une délégation. J'ai reçu une lettre que je considère comme injurieuse, dans laquelle Mazot explique qu'il n'a pas le temps, n'est-ce pas, ni lui ni personne du Conseil constitutionnel. C'est extraordinaire. Voilà un monsieur qui est chargé de superviser les élections, qui n'a pas le temps de recevoir le porte-parole du candidat arrivé en finale la dernière fois.
Le plus extraordinaire.
Mais moi, j'ai bien connu Mazot, qui est un personnage cynique, capable de défendre une chose et son contraire, qui est un homme de Chirac, qui est arrivé là...
Porte-flingue de Chirac. Il faut ajouter que c'est un ancien militant d'extrême gauche.
Paraît-il, oui.
Il se trouve que j'avais le témoignage là-dessus de quelqu'un qu'il a très très bien connu quand ils étaient pions dans une institution dont le directeur était d'ailleurs, chose amusante, le père de Jean-François Kahn. Mazot était à l'époque un très violent militant d'extrême gauche, mais de l'extrême gauche la plus violente qui soit, et pas plus que Chirac, il a changé d'avis. Ce sont des gens qui se sont infiltrés dans le système, ouais. Et comme Chirac est communiste, Mazot est resté espèce de maoïste totalement givré d'ailleurs, parce que quand vous employez le mot cynique, c'est exactement ça, mais c'est un cynisme de cagébiste, c'est un cynisme de flic de la sécurité, c'est-à-dire c'est le type qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit « je vous emmerde, et je ferai ce que je veux parce que j'ai le pouvoir de le faire, si ça vous plaise ou non, c'est exactement le même prix, les lois je m'en tape, et c'est le président du Conseil constitutionnel ». C'est extraordinaire. J'ai revu le parrain il n'y a pas très longtemps. Ce sont des méthodes de mafieux. Ces gens-là sont des mafieux. Mais des mafieux au sens de la véritable mafia, quoi. C'est-à-dire, ils nomment leur capo de tutti capi, et puis ils ont le chef des porte-flingues, et bon, Mazot, c'est ça.
Alors, toujours est-il que dans cette situation-là, je vous donne, c'est un scoop. Jean-Marie Le Pen a décidé de s'adresser au ministre de l'Intérieur. Ouais. Pas du tout à M. Sarkozy candidat, mais à M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui est chargé à ce titre de préparer le décret de convocation des électeurs. Alors pour le moment, nous avons plusieurs centaines de promesses, évidemment. Nous n'avons pas le chiffre des 500. Nous sommes bien placés pour savoir par expérience, car ça a été le cas la dernière fois, que malheureusement nous sommes dans un pays où ces élus importants que sont les maires n'honorent quelquefois pas leur parole et même pas leur signature, puisque nous n'avons pour le moment que des pré-engagements qui n'ont aucune valeur officielle. Le système multiplie, contrairement à ce que l'on affirme, il multiplie les obstacles sous les pieds des candidats non officiels, et en particulier, ce qui est quand même extraordinaire, que les candidats déclarés, et un candidat comme Jean-Marie Le Pen arrivé en finale la dernière fois, ne dispose pas, lui ou ses représentants, d'un stock de formulaires officiels qu'il pourrait faire signer dès à présent. Le fait que ce formulaire ne soit pas remis aux candidats, le fait qu'il ne soit remis qu'en un seul exemplaire au maire, le fait qu'il soit remis au maire dans un délai extrêmement court de collecte, tout ça, ce sont des obstacles.
Que leur nom soit publié.
Que leur nom soit publié, ce qui n'était pas le cas à l'origine, que leur nombre ait été multiplié par 5, alors qu'à l'époque où cette législation est prise, ils ne sont que 100. Tout cela constitue autant d'obstacles que le système met. J'espère que ces obstacles seront vaincus. Je le crois très fermement. Mais pour le moment, ça n'est pas fait. Et contrairement à ce que disent un certain nombre d'imbéciles ou de voyous, le Front National n'a jamais menti sur cette situation. Quand nous faisons part de notre inquiétude à ce sujet, cette inquiétude est légitime, elle est vraie, elle est fondée, et elle l'était la dernière fois. J'ai des souvenirs très précis que la dernière fois, je compte en année liturgique, en l'occurrence, parce que le week-end de Pâques était un long week-end, c'était le mardi de Pâques, le dernier délai pour déposer les signatures au Conseil constitutionnel, le jeudi saint, c'est-à-dire 5 jours avant, nous ne les avions pas. Voilà.
Vous savez sans doute, Bruno Gollnisch, que M. Besancenot craint fort de ne pas avoir ses signatures, ce qui ferait que nous n'aurions que 2 candidats trotskistes au lieu de 3, ce qui serait là encore un déni de démocratie quand même invraisemblable. Il faut ajouter, c'est le PS qui menace, qui passe la consigne de ne pas lui donner de signature, contrairement à 2002.
Oui, je crois qu'ils ont compris la leçon, ils veulent mobiliser, eux, sans scrupule également, la gauche de la gauche, l'extrême gauche, et peu importe si c'est l'extrême gauche marxiste, révolutionnaire, trotskiste, et dont l'histoire, au moins doctrinale, s'est écrite dans le sang, ça ne gêne pas ces bons apôtres.
Mon cher Goffman, j'ai le regret de vous dire que la cellule de vigilance villiériste vous allume encore un coup. Monsieur Goffman est un désinformateur. Monsieur Villiers est toujours à 4% et non à 2%, soyez honnête.
Je répète ce que je dis dans les journaux.
Dans la presse, vu à la télé.
Ben, oui, mais enfin.
Il est à 4%. Pourquoi ne le dites-vous pas? Pourquoi voulez-vous?
Est-ce que je viens de lire
cette très importante information.
Je viens de lire dans toute la presse qu'il était tombé à 2.
Oui, merci.
Il t'a gâché la soirée.
Si, vous comprenez, moi, comment voulez-vous que j'obtienne un peu de sérieux, un peu de considération pour cette émission si vous colportez des bruits?
Je voudrais quand même rappeler.
Pas dans quel journal, en plus.
Écoutez, franchement.
Je pourrais en faire la liste, mais
je suis désolé de vous faire de la peine, mais je suis obligé de vous reprendre.
Non, mais c'est vrai que vous me faites de la peine parce que je suis obligé de dire que là, je suis accablé de messages assez violents de Villiers, vous êtes un menteur, etc., uniquement parce que j'ai eu tort tout à l'heure sur la question du logement opposable. J'ai cité Jean-Marie Le Pen en omettant de citer Monsieur de Villiers. Bon, alors je m'en excuse humblement, je ne le ferai plus. Et d'ailleurs, c'est pas moi, c'est pas de ma faute.
Je ne recommencerai pas.
Et je recommencerai pas.
C'est bien. Alors ça va. Donc, allez en paix, mon fils. Quant à moi, je dois dire à une auditrice qui dit « Je suis stupéfaite d'avoir entendu Serge de Beketch dire ce qu'il a dit sur le maréchal ». Je voudrais me permettre de lui rappeler que dans le discours de la méthode et dans la méthode du discours, il y a une dimension qu'on appelle le deuxième degré et dont il ne faut pas hésiter à faire usage quand la justice le commande. La justice, je veux dire...
L'appareil judiciaire.
Un message au premier degré du docteur Dor. Pierre Mazot était dans le même séminaire que moi à Notre-Dame de la Villette. Ce qu'il est devenu est grave compte tenu de la formation d'origine qu'il a eue comme moi.
Eh bien, ça ne fait qu'ajouter au mérite du docteur Dor qui, ayant connu Mazot dans sa jeunesse, continue malgré tout à être contre l'avortement.
Hein? Ça, c'est très drôle.
Voilà.
Ouais, très bien.
Maintenant, je ne sais pas si vous accepterez de jouer à ce jeu-là, je pense qu'il ne va pas vous plaire du tout, mais je vous pose quand même la question, Bruno Gollnisch. Mettons-nous dans l'hypothèse où les 500 signatures ne sont pas là au moment fatal. Est-ce qu'il y aura une position? Est-ce que vous avez déjà envisagé ça? Est-ce qu'une position a été envisagée? Une réaction?
On verra. Moi, c'est une hypothèse dans laquelle nous ne souhaitons pas nous placer. Ceci étant, Jean-Marie Le Pen a connu cela déjà. Bon. Je pense que nous nous efforcerions de faire en sorte que l'élection législative soit la revanche. Bien évidemment contre le système, mais je pense que ça signerait la fin de la Ve République, voilà. Très sincèrement, et la transformation définitive de la France en République bananière. Je n'exclus pas d'ailleurs des réactions désespérées. Nous sommes des gens tout à fait légalistes, et je crois au respect des lois, même injustes, parce que souvent c'est un moindre mal par rapport à la violence civile dont on ne sait pas comment elle peut dégénérer, comme on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Ceci étant, je pense que les Français ne supporteront pas indéfiniment le système, et que si nos adversaires s'assoient sur le couvercle de la marmite, elle finira par exploser et par leur brûler les fesses, ça c'est certain.
Mais moi j'avais une petite idée, je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir pensé à ça, mais dans cette hypothèse, c'est de lancer un appel à tous ceux qui auraient voté pour Le Pen en leur disant « votez nul », c'est-à-dire annuler votre bulletin de vote, parce que c'est compté ça, c'est décompté au dépouillement. Et si les bulletins de vote, les bulletins nuls qui sont en général, je crois que la moyenne ça doit être autour de 2 ou 3% des bulletins, si ça passe brutalement à 25 ou 28%, c'est une forme de publicité cachée.
L'élection prend une drôle d'allure. Là.
Et le système...
Moi, je voterai Le Pen de toute façon.
Et voilà.
Il est son autorisation. Enfin, qu'il ait cette autorisation ou pas. Mais je crois que nous allons réussir grâce à la mobilisation quand même de nos sympathisants. Je lance un appel d'ailleurs. S'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui connaissent, qui ont des maires dans leurs relations familiales, personnelles, amis.
Si votre mère est mère.
Voilà.
Mais c'est oui, quand
et
on pense
à la... qu'ils entrent en relation avec eux, voilà. Et qu'ils sachent bien que c'est un devoir personnel du maire. Ce n'est pas le conseil municipal qui s'engage, ce n'est pas la commune. C'est le maire qui doit recommander une candidature au même titre qu'il a pour mission de délivrer les certificats d'état civil, les permis d'inhumer de ce système, encore une fois, incapable de redresser le pays. Bon, enfin, toutes ces formalités administratives, c'est une formalité administrative par laquelle le maire atteste qu'une candidature est sérieuse. Rien de moins, rien de plus.
Comment est-ce qu'on vous contacte, les élus locaux, vos responsables locaux, ou bien à Saint-Cloud,
Front National, l'un ou l'autre, ou Bruno Gollnisch, Front National, 4 Ruvaux-Guyon, V-A-U-G-U-Y-O-N, 92-210, Saint-Cloud.
Je suis fasciné par l'énergie qui était pensée pour essayer d'avoir les signatures. C'est incroyable qu'on soit dans un système pareil. Ça doit bouffer un temps fou à des tas de gens.
Enfin, ça mange folie, énormément de temps et énormément d'argent. Temps qui est dépensé à importuner des maires réticents parce qu'ils ont peur pour leurs subventions, parce qu'ils ont peur des réactions de leur conseil municipal, de leurs femmes, de leurs voisins, de que sais-je encore.
Ce qui ne les empêche pas de présider les cérémonies dont je parlais tout à l'heure.
Bien sûr, au héros de la résistance, voilà. Et que sais-je encore. Bien sûr. Le temps qui est passé là, c'est un temps, c'est une énergie qui ne sont pas dépensées aux opérations normales d'une campagne électorale qui est tournée en principe dans les électeurs.
À cet égard, c'est quand même fascinant de voir que la secte de Madame Laguiller, qui s'appelle l'Union communiste, dont le journal est Lutte ouvrière, a trouvé les moyens de réunir, dit-elle, plus que les 500 signatures, mais aussi de s'offrir 15 000 panneaux 4 par 3 dans toute la France. J'en connais pas le prix, mais enfin, ça doit être quelque chose d'énorme. Panneaux dont j'apprends que l'accès serait interdit à Jean-Marie Le Pen et au Front.
Toutes les fois que nous avons essayé d'obtenir des réseaux d'affichage, comme par hasard, ils n'étaient pas libres. Alors, j'ai fait l'expérience moi-même quand je dirigeais les campagnes. J'avais écrit à tous ces gens-là pour obtenir des panneaux. Soit on n'avait pas de réponse, soit on avait des réponses que c'était pas libre. Alors on répliquait, dites-nous quand ils sont libres.
Ah oui.
Voilà, et là, on n'avait pas de réponse. Donc, par conséquent, il est extrêmement clair que les grands réseaux ne veulent pas afficher le Front National. C'est un refus de vente qui les rend théoriquement passibles du tribunal correctionnel. Mais les lois ne sont appliquées qu'à sens unique. Elles seront appliquées contre le militant et qui, dans cette situation-là, aura pour exercer cette grande liberté publique qui est la liberté d'afficher, qui est une des libertés essentielles de la presse. Je rappelle que c'est la même loi, la loi de 1881, qui régit à la fois la presse et l'affichage. Et l'affichage, c'est le moyen d'expression du pauvre. C'est celui qui n'a pas pour lui les chaînes de télévision, les grands médias, et qui peut, malgré tout, moyennant quelques francs, arriver à faire connaître son opinion. Eh bien, comme l'affichage commercial a banni les espaces d'affichage libres, ce sont ceux qui essaient de coller quelques affiches sur une palissade ou sur un mur de béton qui vont se retrouver devant les tribunaux de police ou interpellés, conduits au poste, gardés à vue, que sais-je. Je crois qu'il y a une inversion des valeurs absolument dans tous les domaines.
Soyons positifs, Jean-Marie Le Pen aura ses 500 signatures.
Oui. Mais pas tout seul, à condition que tout le monde s'y mette.
Est-ce que Maigret vous en apporte 140 ou non?
Ça ne se présente pas en termes de marchandage. Un certain nombre de maires avaient signé pour Bruno Maigret, puisqu'il avait pu être candidat la dernière fois. Il est évidemment dans la logique de l'Union patriotique qui se fait que Bruno Maigret et ses amis contactent les maires en question pour leur demander de parrainer Jean-Marie Le Pen, et je suis persuadé qu'ils le feront.
Enfin, ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que ces spéculations sur quel marchandage il aurait pu avoir entre Maigret et Le Pen, ça tient pas debout, tout simplement, parce que ce que vient de nous expliquer Bruno, c'est que, d'une part, les maires, ils sont restent propriétaires de leur signature, qu'ils n'ont pour l'instant donné qu'une promesse, laquelle, comme on sait, n'engage que ceux qui la reçoivent. Par conséquent, la promesse n'engage que ceux qui la reçoivent. Donc, le maire dit à l'envoyé de Bruno Maigret, d'accord, je donnerai ma signature à Bruno Maigret. Le jour où le gars va revenir le voir en disant, écoutez, vous connaissez les accords qu'on a passés avec Maigret, donc votre signature, elle ira à Le Pen. Le type lui dit, vous allez vous faire cuire un œuf. C'est tout. Donc, ça, c'est vraiment, s'il y a eu une négociation, je regrette de dire que c'est ce qu'on appelle un marché.
On n'est pas plus propriétaire de ses voix en termes.
Ça, c'est comme les gens qui disent je donne
le nom. On est propriétaire de ses parrainages, bien sûr.
Et pour rester sur cette histoire, parce que moi je considère que c'est le plus grand scandale de la démocratie actuelle, cette histoire de signature de maire. Bon, personnellement, les scandales démocratiques me gênent pas beaucoup, mais puisqu'on vit dans la démocratie, au moins qu'ils aient la pudeur d'appliquer au minimum leurs propres règles. Quels sont exactement, parce que j'entendais ce matin sur une radio, dire que tous les élus ont le droit de signer, quel que soit leur statut d'élu. Alors, quels sont exactement, Bruno Wollnisch, les élus qui ont le pouvoir de signer? Il y a les maires,
les sénateurs,
qui encore?
Il y a les parlementaires, donc députés, sénateurs, députés européens, les conseillers régionaux, généraux et les maires. Voilà, point final. Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, c'est-à-dire des départements, et les maires. Je vois qu'on me pose une question. Monsieur Wollnisch, vous prétendez que les imbéciles ou des voyous colportent le bruit que M. Le Pen a ses 500 signatures. Avant-hier, paraît-il, M. Griotret, sur cette radio, l'a soutenu. Or, M. Griotret est sérieux. J'ai bien connu M. Griotret est sérieux. Je ne range pas ni dans la catégorie des imbéciles, ni dans la catégorie des voyous, mais s'il dit que nous avons à l'heure actuelle ces 500 signatures, je dirais poliment que M. Griotret se trompe. Il se trompe ou il a été trompé. Nous ne les avons pas. Si nous les avions, nous le dirions. Voilà, nous ne les avons pas. Nous aimerions beaucoup les avoir. Griotret de le croire. Mais il peut intervenir auprès de ses amis politiques puisqu'il avait des positions assez proches des nôtres tout en étant, lui, membre, je crois, du Parti Républicain. Il peut intervenir auprès de ses amis politiques pour que nous les ayons. Ça les rendra son affirmation audacieuse encore plus sûre.
En demeurant de façon parfaitement factuelle, c'est absolument indiscutable que Le Pen n'a pas les 500 signatures.
De toute façon, pour le moment, évidemment, aucun candidat n'a aucune signature puisque les formulaires officiels ne sont pas arrivés. Mais de surcroît, nous n'avons pas les 500 engagements de signature qui nous permettraient de voir l'avenir de façon un peu plus sereine. Mais nous espérons les avoir, nous faisons tout ce qu'il faut pour les avoir et nous lançons un appel à ceux qui pourraient nous les donner. Et je vous prie de croire d'ailleurs que je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y aurait pour nous à dire que c'est un problème grave si ça ne l'était pas.
Bah, je vois pas non plus.
Sur le plan de la propagande électorale, après tout, il serait tout aussi majoratif de dire que nous les avons les doigts dans le nez et que nous avons vu des cohortes de maires dès l'annonce officielle de la candidature de Jean-Marie Le Pen se précipiter à notre siège pour lui apporter son soutien.
Ça serait beaucoup plus
évident. Ça serait beaucoup pour nous, ce serait beaucoup plus majoratif.
Et de dire aux maires, écoutez, de toute façon, on a déjà 2000 signatures. Vous pouvez ajouter la vôtre, vous ne risquerez rien, parce que comme les 500 qui seront publiés seront tirés au sort, vous avez quand même trois chances sur quatre de vous en tirer, ou de ne pas être tiré par conséquent.
Que pensez-vous des inscriptions massives récemment?
Voilà encore un mensonge médiatique. Pardon de couper la réponse. Vous avez une opinion sur ces prétendues inscriptions massives?
Je vois que c'est surtout le fait de gens qui sont en retard sur le plan administratif, qui n'ont pas le temps ou pas le loisir de penser à la chose publique durant l'année, et puis qui se réveillent un peu au dernier moment. C'est assez fréquent dans l'océan des formalités qu'on a à remplir. Je ne sais pas quel sera l'impact. Je ne sais pas du tout quel sera l'impact électoral. Ce que je sais, c'est que le Front National, contrairement là aussi, je m'excuse de reprendre la formule, à ce que disent un certain nombre d'imbéciles ou de voyous, les voyous ce sont ceux qui sont conscients qu'ils mentent, et les imbéciles c'est ceux qui sont abusés par les voyous. Je précise. Eh bien, le Front National ne bénéficie pas du tout des situations d'abstention. On dit l'abstention favorise le Front National, absolument pas, c'est l'inverse. Je le regrette d'ailleurs, il y a peut-être dans une partie de notre électorat une petite carence en termes de sens civique, parce qu'il y a souvent un réflexe de protestation contre le système politique qui peut se traduire alternativement chez certaines personnes par un vote pour le Front National ou pour Jean-Marie Le Pen, d'une part, ou par un refuge dans l'abstention. Par conséquent, ce qui est le plus profitable pour nous, ce sont les situations de très forte participation. Voilà. Donc moi, je souhaite qu'il y ait une très forte participation, car c'est prouvé par des dizaines d'élections de toute nature, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles. Plus le taux d'abstention est fort, plus meilleurs sont nos résultats.
Monsieur Le Pen s'exprime sur le site internet Les banlieues s'expriment. Quel écho cette entrevue a-t-elle déterminé?
Il est trop tôt pour le dire. Il est certain que la clientèle de ce site n'est pas la nôtre. C'est d'être un peu dans la foulée de la rencontre brève avec Dieudonné, quand Monsieur Dieudonné est venu à notre fête, à notre grande manifestation d'automne, à notre convention présidentielle, et par la suite, c'est vrai, moi-même je me suis rendu à son spectacle. Ça ne signifie pas que Dieudonné, d'un seul coup touché par la grâce, partage toutes les opinions du Front National, ni que nous ne partagions toutes les siennes. Ça veut dire simplement que il s'est passé quelque chose qui a fait que Dieudonné a dit « Mais moi, j'ai beaucoup combattu le Front National, j'ai beaucoup combattu en particulier Marie-France Tirebois à Dreux. Je le regrette parce que je me rends compte que j'ai été abusé. J'ai été abusé par les professionnels de l'antiracisme. L'antiracisme institutionnel, c'est un truc par lequel le système instrumentalise l'ensemble de la population pour lutter contre les nationaux, contre les patriotes, et il n'y a pas plus de racistes au Front National qu'il n'y en a ailleurs. Moi, je trouve que c'est extraordinairement courageux de la part d'un artiste qui a déjà des difficultés à se produire que de dire cela, qui ne peut a priori lui rapporter absolument rien. et en particulier pas forcément non plus dans ses troupes, dans son public.
Est-ce que vous savez à ce propos, Bruno Gollnisch, excusez, mais c'est le moment jamais de faire l'incise. Est-ce que on vous fait une revue de presse et vous avez vu les dessins des antiracistes de Charlie Hebdo qui représentaient Dieudonné comme un singe perché sur l'épaule de Jean-Marie Le Pen? Alors, ça peut pas être de l'antiracisme, puisqu'ils sont de gauche et d'extrême gauche, mais quand même, représenter un noir sous les traits d'un singe, ça vous est arrivé dans votre vue de presse? Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on pense à ce que Jean-Marie Le Pen a encouru pour avoir traité le monsieur Faudécilla de grand zébufou, ce qui était un terme, je dirais, presque affectueux compte tenu des injures dont Faudécilla l'avait abreuvé, je trouve que c'est... Mais bien sûr, il y a deux poids, deux mesures dans notre pays, et il y a une injustice constante qui est faite aux nationaux, et qui est exaspérante, qui est d'autant plus exaspérante, encore une fois, que nous sommes des gens pacifiques. Nous respectons les lois. Il y a beaucoup de pays où une formation politique traitée comme l'est aujourd'hui le Front National, eh bien, verrait des gens dans la rue, peut-être même des gens prendre des fusils. C'est arrivé dans beaucoup de pays. C'est arrivé, par exemple, le fils, parti algérien, a été empêché de se présenter aux élections. Les gens du fils ont pris des fusils et ont commencé à égorger ce qui ne leur convenait pas.
Et pourtant, l'Algérie est un modèle de démocratie.
J'ai l'impression qu'il y a une assurance tranquille des gens du système qui savent très bien que nous ne sommes pas conformes à l'image qu'ils cherchent à donner de nous et qui pensent que nous supporterons toujours indéfiniment n'importe quoi. Je le dis gravement, je suis opposé à la violence, mais je pense que ces gens-là feraient bien quand même d'être prudents.
Mais il y a un exemple, enfin il y a une démonstration de... Un exemple à l'appui de ce que vous venez de dire, c'est cette espèce d'acharnement médiatique très très particulier. Pas plus tard que ce matin, Jean-Marie Le Pen était sur RMC, interviewé par Jean-Jacques Bourdin, je crois qu'il s'appelle.
Oui.
Et bon, sur la question justement des sans domicile fixe, des habitants des tentes de Paris. Et Bourdin lui dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes contre? Et Le Pen dit, oui, bien sûr, je suis contre. Et il explique pourquoi, et il dit, personne ne dit jamais la vérité sur cette question de la crise du logement. La crise du logement est liée au fait que 90% des logements sociaux sont attribués à des étrangers, ou à des immigrés. Bon. Tout le monde sait bien que dans la conversation française, quand on dit 90%, c'est comme dans la Bible quand on dit 144 000. Il va pas y avoir à l'entrée du paradis un ange avec 144 000 tickets pour distribuer les droits d'entrée. Ça veut dire que ça va être difficile d'y entrer. Et donc quand on dit 90%, ça veut dire une proportion très importante des logements est attribuée à des étrangers. Et Bourdin a passé le reste de la matinée à convoquer des experts au téléphone qui tous ont dit « mais ce chiffre est faux, ce chiffre... »
Comment ils le savent, c'est illégal?
Attendez, laissez-moi finir une seconde parce que c'est exactement le problème. Alors, c'est un des problèmes qui se pose. D'abord, parmi les experts qui apportaient leurs réponses, les réponses en question, ils ont fait venir un type qui est un de ces innombrables bouffeurs de subventions qui vivent sur le dos de la misère. Le type, il doit être secrétaire général du comité de préservation des droits des mal logés, sans logis, sous attente de logement, en attente d'attribution de HLM, je ne sais pas, un truc qui permet de payer un président, un secrétaire général, 12 secrétaires et des notes de frais voilà. Et ce type a dit, moi je vais vous donner les chiffres, en fait, et alors je crois qu'il a dit, 24% des logements HLM sont occupés par des immigrés. D'abord c'est pas du tout la même chose. Le Pen a parlé de logements sociaux attribués, et lui il répond, des HLM occupés. Les HLM c'est pas une, je veux dire, ça ne couvre pas le champ des logements sociaux. La plupart des gens qui sont dans les logements sociaux sont justement des gens qui ne sont pas susceptibles d'avoir des HLM parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y accéder.
Non, mais en plus, ils y sont depuis des dizaines d'années. Voilà. Donc, il y a une vieille population française qui existe.
Exactement.
Puis la deuxième chose, c'est qu'on trafique sur le mot étranger, effectivement,
voilà.
Parce que dedans, on sait très bien qu'il y a des Français
immédiatement
de papier.
Mais quand Le Pen dit des immigrés, il veut parler des Français d'origine étrangère.
Mais
pas du tout. Je pense qu'on peut, au moins, même si on n'aime pas Le Pen, il faut lui faire le crédit que quand il emploie un mot en langue française, il sait ce qu'il dit. Et quand il parle d'étranger, il parle d'étranger. Quand il parle d'immigré, il parle d'immigré. Quand il parle de Français d'origine immigrée, il parle de Français d'origine immigrée. Eh bien, tout ça est embourbé et tout. Et alors, accessoirement, de toute façon, la question qu'il posait était, et là, je suis tout à fait d'accord avec Patrick, une question à laquelle on n'a pas le droit légalement de répondre, puisqu'il n'existe officiellement aucune statistique qui fasse état de l'origine nationale des attributaires de logement. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que le type qui a répondu ça, il a dit dans la même phrase la chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il a commencé par expliquer qu'il y avait 24% des logements qui étaient attribués à des Français d'origine étrangère.
Et d'ailleurs,
on n'a pas le droit de faire le recensement.
Et donc, la statistique n'existe pas.
Ça s'appelle clairement se foutre de la gueule du monde, ça.
On n'a même plus le droit, dans un bulletin municipal, de mettre le nom des enfants qui naissent.
Que, là-dessus, tout ça enveloppé par Bourdin dans son discours, où il dit en permanence que sur Radio Monte Carlo, RMC, tout le monde peut dire c'est la radio de la liberté, où tout le monde peut s'exprimer de l'extrême droite à l'extrême gauche et tout, bon, c'est encore un mensonge, bien entendu, c'est pas vrai, je peux en témoigner, parce que plusieurs fois j'ai essayé d'intervenir à l'antenne, ça a été... naturellement pas dit qui j'étais, j'intervenais sous le nom de Julot ou Popol, je posais des questions qui étaient évidemment orientées, mais discrètement, jamais j'ai pu passer. En ce qui concerne les attributions de logement, en tout cas j'ai un témoignage précis qui m'a été donné par mon fils, quand mon fils s'est marié et qu'ils ont eu leur premier enfant, il a demandé à avoir un logement, et la seule question qu'on lui a posée à la mairie quand il s'est présenté, c'est « Appartenez-vous à une minorité ?» C'était la seule question. Il a dit « Mais quoi une minorité ? À quelle minorité puis-je appartenir ? Je suis français. » Alors évidemment, il appartient à une minorité, il est français, il est blanc, il est blond, il est marié avec une femme.
Il est poli.
Il est catholique, alors ça c'est même...
Il n'a pas de casier.
Il est d'extrême droite. Alors ça c'est même plus une minorité, là, c'est carrément un cas clinique.
Il n'y a de toute façon en France aucune statistique crédible sur la notion de français ou d'étranger. Et puis comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il n'y en a pas. Pas parce que on ne recense pas le phénomène de la double nationalité.
Voilà,
déjà, pour commencer. Quand on vous dit, par exemple, qu'un tiers des prisons sont occupées par des étrangers, on ne vous dit pas que le deuxième tiers est composé de gens qui ont aussi la nationalité étrangère, tout en ayant la nationalité française. Mais bien souvent, en l'ayant obtenue automatiquement et en n'ayant rien fait pour s'en montrer digne, sinon, il est douteux qu'il soit là.
Ce qui est d'ailleurs formidable, c'est que quand il y a eu les élections à la présidentielle, enfin la présidentielle en Algérie, on a vu les gens, les Algériens, franco-algériens, de double nationalité, faire la queue devant les consulats pour élire à beauté flic et dire qu'ils avaient ou qu'ils allaient voter, qu'ils avaient voté Chirac.
Oui.
Au deuxième tour.
Ça a été le début de l'engagement de notre ami Farid Smaï, qui est aujourd'hui membre du bureau politique du Front National et qui a commencé comme patron d'une association de jeunes, comme l'on dit, de la deuxième, voire de la troisième génération, dans laquelle il s'adressait aux enfants d'immigrés en disant, écoutez, si vous participez aux élections algériennes, c'est peut-être très respectable, mais ça veut dire que votre avenir est en Algérie. À ce moment-là, il ne faut pas rester en France. Si vous vous considérez comme français, eh bien, vous n'avez aucune raison de participer aux élections algériennes. Et Farid Smaï est l'un de nos militants, et même, on peut dire, l'un de nos dirigeants. Il n'y a donc pas de statistique de la double nationalité. Ça fausse absolument tout. Ça fausse absolument tout. Et en effet, subsidiairement, les logements ne sont pas attribués sur un critère de nationalité. Ce qui est certain, par exemple, un seul exemple. Dans ma région, la région Rhône-Alpes, il y a déjà de cela plus d'une dizaine d'années, le président du conseil général de la Drôme, ça n'est pas rien, c'est le patron du département avec le préfet. Bon. Monsieur Mouton, je donne le nom, élu UDF.
J'espère qu'il se méfie le jour de la vitesse qu'il lui a, c'est tout.
Monsieur Mouton, maire de la ville de Pierrelatte, je donne les références, a un jour président une commission d'attribution des HLM, a dit non, quand même, dans cet immeuble, nous avons donné énormément de logements à des familles d'origine africaine. Là, je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait quand même faire passer le dossier d'un Français, parce que sinon on va créer des ghettos, etc. Bon. Donc, il a favorisé sur un critère de nationalité et dans un but que la pensée unique considère a priori comme légitime, oui, celui de la fameuse mixité sociale, il a favorisé un dossier de famille française. Eh bien, Monsieur Mouton s'est retrouvé sur les bancs de tribunal correctionnel. Voilà. Et il a été condamné. Eh bien, il a démissionné de ses fonctions de maire, il a été réélu triomphalement.
Il n'a pas adhéré au Front National.
Non, il aurait dû, il devrait, il est encore temps.
Oui. Est-ce qu'on peut au moins il devrait signer, lui.
Mais il aura quand même la médaille de la résistance.
Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse...
Il ne sera pas tendu à la libération.
Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse avec le juriste que vous êtes, Bruno Gollnisch? J'ai attendu toute la journée avec impatience de vous retrouver.
Merci.
Parce que je n'arrive pas... Ah bah oui, je défends mon clan, et d'ailleurs je vais toucher mon chèque tout à l'heure. je n'arrive pas à comprendre comment M. Nasseri, qui a été Sami Nasseri, le comédien de Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, et bientôt, réjouissez-vous, Taxi 4, dans un mois...
Ça paraît difficile, maintenant.
Non, c'est pas difficile. Le film est en boîte et il sera sur les écrans.
Il n'y aura pas Taxi 6 parce qu'il est en tôle.
J'en sais rien. Non, il n'est pas en tôle, justement, c'est ma question.
Ça lui fait de la pub.
Il a été condamné au mois de décembre pour insultes, injures racistes envers des policiers d'origine africaine. Et puis, il a été condamné à 6 mois ferme. Et maintenant, on nous raconte que lundi, il est arrêté pour conduite sans permis, que mardi, il est arrêté pour bagarre au couteau devant une boîte de nuit. Alors, moi... j'arrive pas à comprendre.
Qu'est-ce qu'il a prévu pour ce mercredi, là?
Donc, qu'est-ce qu'il a prévu pour ce mercredi, mais surtout, pourquoi
appel et l'appel est suspensif en matière pénale. Voilà. Sauf si vous êtes condamné à plus d'un an de prison et que le tribunal ordonne votre incarcération immédiate. La réponse technique.
Sauf si vous prétendez, par exemple, que les historiens ont le droit de se prononcer sur des questions d'histoire. Voilà. Ça, c'est
particulièrement pécaniste. C'est beaucoup plus grave.
Il n'a pas arrangé ses affaires, là, M. Sami Nasseri.
Oui. Est-ce que vous voulez savoir comment France Info appelle toute cette série de quotidienne quoi, de crimes et de délits de Sami Nasseri? C'est déboire judiciaire.
Non, mais la vérité, Bruno Gollnisch a donné une explication en droit pur à sa liberté. Mais il y a une explication occulte. Il y a toujours une explication occulte. Il y a même une main, oui, évidemment. Et la main qui dirige, la main occulte, naturellement, qui est celle de la pénitentiaire.
Oh, une cochonne, celle-là.
Ah,
écoutez Radio Courtoisie.
Oui, c'est le moment de le rappeler. Merci, Goffman.
Je fais le CSA.
Donc, cette main occulte, elle a décidé que les matons, pardon, il faut dire les surveillants, ne veulent absolument pas avoir un type pareil dans leur prison, parce qu'ils se disent, il est dehors, il casse la gueule à tout le monde, il casse la gueule aux flics, il les injurie et tout, il va nous casser la gueule à nous aussi.
Ouais,
donc on n'en veut pas.
Oui,
il va falloir faire une prison spéciale pour lui.
Virer de l'hosto, virer de la Légion, virer de la tôle.
Voilà. Et alors, on va finir par en arriver à cette solution qui avait été proposée, non pas par Alphonse Allais, mais par un de ses épigones, je suppose, qui est de mettre les honnêtes gens en prison pour les tenir à l'abri des voyous qui sont en liberté.
Eh oui.
Hein?
Eh oui.
On parle beaucoup du vote des banlieues, pardon Serge. Dans quelle mesure la fameuse affiche du front où l'on voit une jeune fille de couleur peut avoir un impact positif auprès des Français d'origine étrangère ou des dom-toms?
Oui, je crois que cette affiche ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
On l'a surtout vu dans les journaux.
Voilà, oui, on l'a surtout vu dans les journaux, c'est vrai.
Personne ne veut la coller, Bruno Gollnisch.
Elle manifeste que nous acceptons dans la communauté nationale, que nous reconnaissons dans la communauté nationale des jeunes gens dont la couleur de peau n'est pas forcément laiteuse, quoi. Voilà, ben c'est pas tellement nouveau, que ce soit des Antillais, que ce soit des jeunes issus de l'immigration, à la condition, bien évidemment, qu'ils manifestent leur amour de la France, leur désir de respecter ses lois, de s'adapter à une communauté nationale qui n'est pas, elle, indifférenciée. Je pense que l'on a le droit, en ces temps où l'on se préoccupe légitimement des espèces en voie de disparition, de dire qu'il y a quand même une nation française qui est principalement celtique, latine, germanique, principalement européenne, et qui, après tout, a le droit de vouloir le rester.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait confié à un journaliste de Libération le soin de réaliser les affiches de propagande de...
Pourquoi vous me regardez, hein? Je suis pourri.
Un journaliste de Libération, vous me l'apprenez?
Oh, je sais pas. Moi, je trouve qu'on sent la patte de Forcari, là, derrière.
Non, ça, je ne crois pas.
Il n'a même pas servi à ça, alors.
Non.
Monsieur Gollnisch, sait-il ce qu'il en est, constitutionnellement, de la possibilité pour un binational d'accéder aux responsabilités de Premier ministre et de Président de la République française?
Il n'y a dans notre Constitution aucun obstacle. Car la catégorie de binational n'existe pas au regard du droit français. Les binationaux sont considérés comme français par la France. Ils peuvent être bi, tri, quadrinationaux d'ailleurs. J'ai connu un cas. Voilà, ils sont considérés comme français par la France. À partir de ce moment-là, ils ont tous les droits afférents à la qualité de citoyen français.
Après avoir fait leur
il
service.
Il y a des États où, sur le plan constitutionnel, par exemple, il ne suffit pas d'avoir la nationalité. Il faut l'avoir d'origine. Il faut être né dans le pays, vous savez, par
les
exemple.
Les États-Unis.
Aux États-Unis, par exemple, c'est un problème aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, c'est ce qui avait empêché Henry Kissinger, par exemple, d'envisager de se présenter.
Et Schwarzenegger, moi.
Ou Schwarzenegger, d'envisager de se présenter aux élections présidentielles américaines. Ce n'est pas le cas en France. Chacun peut porter là-dessus un jugement.
Que pensez-vous des images de la pendaison de Saddam Hussein? Et quelle est votre position et celle du Front National devant cette mascarade de justice?
Je pense qu'il est heureux qu'il y ait des images parce que ça manifeste l'ignominie. Il vaut mieux que l'ignominie soit publique que cachée.
L'auteur des images est arrêté.
Paraît-il. Oui, mais c'est là qu'on voit.
Il va passer un mauvais quart d'heure.
Parce que, après tout, les images, les Américains avaient voulu des images d'un procès. J'observe quand même une chose, c'est qu'on nous dit, mais Saddam Hussein n'a été condamné que sur un chef d'accusation, les représailles contre un village où une embuscade avait été tendue contre son escorte et contre lui. Mais il s'est défendu. On voyait bien à la télévision qu'il se défendait à ce sujet. On le voyait bien. Tout ça pouvait parfaitement être traduit. Qu'a-t-il dit pour sa défense? On ne le sait pas. On ne le saura pas. On le voit qui parle. On le voit qui apostrophe ses juges. On ne sait pas ce qu'il dit. C'est comme Milosevic. Milosevic, je n'étais pas partisan personnellement de Milosevic. J'étais partisan de l'indépendance de la Croatie. Et je pense que Milosevic a engagé son pays dans une guerre très malheureuse contre la Croatie. L'affaire du Kosovo, c'est tout à fait différent parce que je ne vois pas au nom de quoi on peut dire aux Serbes, vous devez respecter les frontières historiques de la Croatie, même s'il y a des Serbes qui vivent en Croatie, ils doivent rester là où ils sont, vous ne pouvez pas annexer cette partie du territoire croate, et pourquoi la même jurisprudence ne vaudrait pas en faveur des Serbes quand ce sont les Albanais qui habitent au Kosovo, qui était le berceau national de la Serbie. Bref, fermons la parenthèse. Au tribunal pénal international, eh bien Milosevic s'est défendu durant des mois, de façon, je crois, extrêmement pugnace, extrêmement combative, brillante.
On n'a pas eu une ligne dans aucun média occidental de sa défense.
C'est, Balcon Info.
C'est là que nous vivons. Oui, mais enfin, ce sont sur des sites confidentiels.
Et le Libre Journal, bulletin paroissial.
Et bien sûr, voilà. Mais je parle, hélas, des grands médias qui font encore la majorité de l'opinion. En ce moment se déroule, je crois, le procès de M. Cecil, qui est le président du plus important parti serbe, qui s'est constitué prisonnier dès la publication de l'acte d'accusation contre lui, qui est au secret depuis 4 ans dans les geôles de La Haye, et qui exige, professeur de droit, de se défendre lui-même, qui ne veut pas de ses avocats commis d'office, qui sont en réalité des auxiliaires de l'accusation. Passant leur temps à reconnaître les crimes réels ou imaginaires de leurs clients et à solliciter l'indulgence du tribunal. Eh bien, ce droit a été refusé à Cecil. J'ai, avec plusieurs de mes collègues au Parlement européen, demandé à lui rendre visite. Ce droit m'a été refusé, ce qui est tout de même extraordinaire, avec un motif d'une parfaite tartufferie, à savoir que M. Cecil ne m'avait pas mis dans la liste des personnes qui désiraient voir. Mais évidemment, il ne savait pas que nous avions l'intention de lui rendre visite. Par conséquent, avant de savoir s'il acceptait notre visite ou pas, il fallait le lui demander. C'est tout à fait clair. Par conséquent, cette justice est une, je crois, une mascarade. Il est quand même assez plaisant que l'on entende dire que Saddam Hussein était un personnage abominable parce qu'il avait tué des civils irakiens et que ceci nous soit dit par les autorités américaines qui n'ont jamais tué que 80 000 civils à Nagasaki, 100 000 à Hiroshima, 120 000 à Dresde et ailleurs. Étant entendu d'ailleurs qu'en Irak même, ce qui a fait le plus de victimes civiles et de très loin, c'est l'impitoyable blocus américain pendant près de 12 ans, dont est résultée une situation de malnutrition épouvantable, notamment pour les enfants de ce pays.
Et le Lancet, qui est une des revues médicales les plus respectées au monde, enfin une des deux revues les plus respectées au monde, a établi que 600 000 Irakiens étaient morts des suites directes de l'embargo.
Oui, c'était incroyable. On allait jusqu'à refuser les importations de crayons de papier. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu en Irak. Au motif qu'avec les mines du crayon, on aurait pu faire des graphites. Du graphite des bombes atomiques. C'est monstrueux. Mais je pense que, surtout, que la faute, au-delà de tout cela, la faute politique majeure a été de s'en prendre, non seulement à Saddam Hussein, mais au parti Baas, c'est-à-dire au nationalisme arabe, qui était, on peut dire aujourd'hui, hélas, qui était la seule force politique, spirituelle, intellectuelle, en mesure de s'opposer à la poussée de l'islamisme fondamentaliste. Et on le voit bien, d'ailleurs, si les Américains voulaient sortir du piège irakien, eh bien, ce qu'ils avaient à faire de plus intelligent, c'était de sortir Saddam Hussein de sa prison, pas pour le pendre, mais pour le remettre au pouvoir.
Mais pour comprendre ça, il faut avoir lu la vieille légende du golem de Prague.
Que pense M. Gollnisch et le Front National de la transformation du musée des colonies de la Porte Dorée en soi-disant musée de l'histoire de l'immigration ? Ont-ils l'intention de faire quelque chose pour protester contre l'inauguration qui doit avoir lieu en avril ? Et un autre message qui suit dans le même genre, j'ai toujours voté Jean-Marie Le Pen et Front National, et je continuerai. Mais je vous trouve un peu timide à l'égard des règles et des lois. On ne peut indéfiniment respecter des lois criminogènes.
Oui, je suis de cet avis. C'est ce que je viens d'exprimer tout à l'heure. Ça, c'est ma réponse à la deuxième question. La réponse à la première, je crois effectivement que nous pourrions nous emparer du sujet. Je pense qu'il faut aller changer l'intitulé. Musée des colonies, il n'y a plus de colonies. Bon, on pouvait avoir un musée de l'outre-mer, on pouvait avoir un musée de l'aventure française
Le musée de la préhistoire, il n'y a plus de préhistoire.
On pouvait avoir un musée de la France... De l'aventure française en Outre-mer ou quoi que ce soit, peu importe, le réduire à un musée de l'immigration, c'est absurde.
Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans ?
Les immigrés ?
C'est un projet Jospin, je crois, au départ. Hein.
Oui, ça y ressemble, enfin c'est digne de lui, oui, tout à fait.
Un de plus qui est repris par l'UMPS avec enthousiasme.
Ça fait partie des méthodes subversives qui consistent à couper les Français de leur passé et à les persuader qu'ils n'ont d'autre avenir qu'en acceptant l'invasion de leur propre
pays. On va casser, vous croyez, au marteau-piqueur, les bas-reliefs, la statue, le groupe statuaire qui est en face du musée des colonies, parce que on y voit de pauvres Africains qui pagayent pour remorquer l'oppresseur blanc dans leur pirogue.
C'est pas de la pêche au crocodile, c'est du ski nautique.
Ah bon,
profondément.
Alors, un auditeur vous dit, je suis en train de vous écouter. En tant qu'auditeur et spectateur, je constate que Bruno Gollnisch est toujours extrêmement clair et percutant dans ses explications et développements. Il a des façons de dire les choses qui permettent à ceux qui l'écoutent de toucher du doigt des choses ressenties confusément ou même pas ressenties du tout. Ceci, ajouté à sa courtoisie, sa politesse, sa bonne humeur, son calme...
Pas toujours.
En fond, un redoutable représentant du Front National et en donne une bonne image, une image rassurante pour un électorat indécis. Je ne dis pas qu'il est le seul dans ce cas, car il y a d'autres talents manifestement au Front.
C'est vrai. Mais je
me suis demandé il y a quelques mois si un grand nombre de médias, dont les médias nationaux ne faisaient pas exprès, de n'inviter que Marine ou Jean-Marie pour la raison dite ci-dessus, que Bruno Gollnisch leur apparaît par sa personne une dédiabolisation à lui tout seul. Et d'autre part, pour insinuer l'idée, dans l'opinion, que le Front National se résume à une affaire de famille avec tous les aspects négatifs que l'on attache à cette dernière caractéristique, évidemment fausse. Comment faire pour que Bruno Gollnisch passe plus souvent dans les grands médias, ainsi que d'autres talents de son parti?
C'est sa radio courtoisie, quand même.
Merci beaucoup téléspectateur des choses aimables qu'il dit. À cet auditeur.
Moi, je ne le remercie pas, parce que...
Il souhaiterait être un téléspectateur, voilà, mais je ne suis pas. Mais je remercie beaucoup Radio Courtoisie de m'inviter, et en particulier Serge de Beckett.
Mais dans la dédiabolisation, la concurrence est particulièrement forte en ce moment au sein du Front. Ça dédiabolise à tout.
Moi, je crois que l'hostilité d'une partie des médias, enfin des médias institutionnels à mon égard, ne vient pas de ce que je pourrais dédiaboliser. Elle vient de ce qu'ils me considèrent comme étant l'un des représentants du diable.
Oui, c'est ça.
De ce que je suis un réactionnaire tranquille, sûr de lui, à défaut d'être dominateur, malheureusement.
Ça ne saurait t'arrêter. Ça vient.
Moi, je ne remercie pas cet auditeur parce qu'il veut nous ôter le pain de la bouche. Après tout, c'est nous qui sommes là pour cirer les pompes de Bruno et toucher un chèque.
Vous venez de perdre votre chèque, mon vieux. Vous avez bien fait de vous taire. Oui.
Non, je crois qu'il y a une hostilité. Il y a une hostilité indiscutable de certains médias à mon égard. Ça fait partie de la vie. C'est vrai que nous ne sommes pas du même monde. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes méthodes, les mêmes réflexes, les mêmes façons de penser, la même sensibilité.
Ils ont des archives aussi. Et moi, j'ai le souvenir notamment d'une émission de télé où vous aviez repris de voler, si j'ose employer ce mot-là à propos de ce personnage, Monsieur Devedjian.
Oui.
Et là, je pense que les gens qui ont vu cette émission se sont dit, alors, Gollnisch, méfie, comme on dit en Corse. Parce que l'animal est redoutable. Et on est prié de monter en haut des gradins. La tête de Devedjian, ça a été un grand moment de bonheur, ça.
Oui.
Il était pétrifié.
Monsieur Devedjian, qui au moment des événements de 98, qui nous ont affligé, justement, la scission, participait à un débat sur le Front National et disait que nous étions des gens sans moralité. Je lui ai rappelé deux péchés de jeunesse et dont je n'ai eu qu'à faire une référence allusive. Ça suffit à le faire taire.
Oui, c'était un grand moment. Un grand moment. Je voudrais qu'on parle brièvement, si vous le voulez bien, des sondages. Parce que on les voit fleurir et se multiplier. Alors il y a maintenant des sondages sur Internet qui n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire en même temps ils paraissent avoir une certaine valeur parce que les chiffres des personnes répondant sont 5, 6, 10 fois, 20 fois plus importants que dans les sondages payants.
Mais ce ne sont pas des échantillons.
Mais ce
ne
sont pas des échantillons, ce ne sont pas des panels, comme on dit. Alors, quels sont vos sondages à vous ?
Sincèrement, je ne suis pas très doué pour les commentaires de sondages. Les sondages, à notre égard, se sont toujours trompés, et ils s'étaient aussi trompés en 2002. Il faut se rappeler que quelques jours avant le premier tour, on nous donnait à 10 ou 11%. Je me souviens d'avoir été sur une émission que présidait Yves Calvi en présence de Monsieur Perrineau et de Monsieur Lesch, qui était le patron, je ne sais plus si c'est d'Ipsos ou... Bon. Et sur le thème, qui est le troisième homme ? Parce que dans les sondages, précisément, Jean-Pierre Chevènement avait décroché. Bon. Et on voyait bien qu'il chutait. Et alors, si c'est pas Chevènement, qui est ? C'était au minimum, évidemment, Jean-Marie Le Pen, qui, quoique sous-estimé, avait été durant toute l'année au coude à coude avec Jean-Pierre Chevènement, et souvent le dépassant quand même d'un point ou deux dans presque tous les sondages. Eh bien non, Monsieur Lesch a dit non, je n'ai pas la troisième personnalité, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Sur quoi finalement il avait raison, puisque Jean-Marie Le Pen est arrivé second. mais c'est pas Jean-Marie Le Pen, non, c'est pas lui, il sera pas en 3, il sera pas en 4, et je ne le vois même pas faire un score à deux chiffres. Autrement dit, il fera moins de 10%. Bon, on sait ce qu'il en a été. Ce qui est grave, c'est que Monsieur Lesch est un professionnel, qu'il est payé pour ça, alors, bien payé, voilà. Et qu'il a, sous sa coupe quantité d'experts, d'agents chargés de recueillir l'information, d'experts chargés de la traiter. Et alors, quand quelqu'un trompe l'opinion à ce point, c'est évidemment très grave. C'est très grave, d'ailleurs, moi je l'ai bien vu dans beaucoup d'élections. Par exemple, bon, la dernière élection municipale à Lyon. Bon, les listes que je conduisais ont fait à peu près 10%. On leur donnait, très concurrencés par les listes de Charles Millon, etc. Bon, mais on leur a donné 3% en début de campagne. Mais si on leur avait donné 10%, je pense qu'elles auraient fait 15 ou 20. Parce qu'il y a évidemment un réflexe très courant qui est celui du vote utile. Alors il faut savoir que, comme le dit d'ailleurs un essayiste qui a publié un livre intéressant qui s'appelle « Voter utile est inutile » et qui n'est pourtant pas de nos idées, mais maître Marc Dugois, voter utile, c'est vrai, c'est le vote le plus inutile. Le seul vote utile, c'est de voter selon ses convictions.
Ce que vous évoquiez à propos des sondages mensonger, rendu volontairement mensonger.
Oui, oui.
Ça pose une vraie question, parce que quelqu'un comme Jean-Marc Lesch, c'est quelqu'un qui, quand il ne fait pas de sondage politique pour des journaux ou pour des partis, fait des sondages pour des entreprises. Donc, il a des clients qui sont des gens sérieux, qui bâtissent une stratégie commerciale sur les résultats de ces sondages. On peut supposer que si ça dure depuis aussi longtemps, c'est parce que les résultats des sondages effectués par M. Lesch sont fiables. Quand il donne des résultats, quand il donne des sondages politiques qui sont manifestement et grossièrement faux, comme c'est le cas, sur les prévisions de score du Front National.
Je peux en apporter une preuve au passage.
Ouais.
Serge, j'ai eu en main la preuve du caractère volontaire de ces falsifications. On l'a cité dans le Libre Journal. Souvenez-vous-en, c'était il y a un an et demi ou deux ans. Le CSA avait vendu le même sondage à deux clients marseillais différents,
ouais,
et selon les résultats variaient de 5% selon les clients. J'ai eu l'occasion d'interpeller le patron du CSA, dont le nom m'échappe, dans une réunion publique sur ce point, et sa réponse a été une crise de nerfs, des hurlements et des insultes. Alors je pense que là, on a eu en main la preuve de la volonté de falsification.
Mais je me souviens très bien de cet aspect de l'affaire. Mais ce que je voulais soulever, c'est une question commerciale. C'est-à-dire, Lesch, quand il publie des faux sondages sur le Front National, ou quel que soit Lesch ou un autre, peu importe, quand un patron d'institut de sondage vient à la télévision et dit devant des millions de Français, Le Pen ne fera pas un score à deux chiffres, autrement dit il fera moins de 10%, et qu'à l'arrivée Le Pen fait 18% ou 16%, la contre-publicité pour l'Institut de sondage est énorme.
C'est elle est vraie.
Quand après, il va dire à la moutarde Amora, on va vous faire un sondage pour savoir si les gens veulent de la moutarde sucrée ou si on n'en veut pas, les gens d'Amora doivent lui dire, écoutez, attendez les résultats. Alors attendez, je veux aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez vous faire cuire un œuf, on n'a pas besoin de vous, on va faire appel à des gens sérieux, vous êtes des rigolos. Hein, la preuve, Le Pen, vous l'annoncez à 9%, il fait 16%, donc vous êtes des incapables. Combien est-il payé, et par qui, pour prendre un risque financier aussi énorme? Combien son entreprise est-elle payée, et par qui, pour accepter de prendre le risque de perdre des clients commerciaux, pour complaire à des clients politiques? Et combien est-il payé? Par qui? Et sous quelle forme? Parce que il n'y a pas d'histoire. Ce sont des entreprises commerciales. Les gars, ils ont un bilan à présenter à leurs actionnaires. Et à la fin, quand ils vont voir leurs actionnaires en disant, bah, cette année, on a perdu Amora, on a perdu...
Mais ils perdent rien du tout, Serge.
Non, mais je suis dans l'hypothèse.
Ils devraient perdre, oui. Ils devraient perdre. Dans une société démocratique, Serge, ce qui vous... Excusez mon insolence, mais ce qui vous échappe, c'est l'aspect totalitaire de la société où nous sommes déjà.
Ça m'échappe pas du tout.
Quand la Pravda imprime, Staline fait lever le soleil. D'accord, elle se déconsidère et le peuple se révolte en masse contre les bolcheviks.
La Pravda est distribuée gratuitement au peuple. Alors donc, c'est pas tout à fait ça. Le problème n'est pas là. Le problème, il est... que le jeu est une complexité extraordinaire. C'est-à-dire, là, on voit qu'il y a véritablement un système de chirajuration. Il s'agit de tromper le peuple et de tromper les lecteurs, mais d'une façon particulièrement vicieuse, avec la complicité de tout un système. Et ceux qui tiennent ce système, c'est ceux qui disent à Lèche, tu peux raconter n'importe quoi sur les sondages Le Pen à condition de le mettre en bas, parce qu'on a, on sait bien que la chute est en train de la chute et que ça sera très bon. Et on te garantit que tu garderas tes clients privés, tes clients commerciaux, parce qu'on fera pression sur tes clients commerciaux et on leur expliquera. Et donc ils vont voir les patrons des entreprises qui sont clientes en leur disant, bon, bien évidemment vous avez compris que ces sondages sont bidons, mais les sondages pour vous sont sérieux. Et donc là, c'est comme ça que fonctionne ce système. C'est un système de mensonges industriels. C'est un système, je reviens, c'est un système mafieux. C'est une bande de mafieux. Une bande de mafieux, exactement comme à Chicago, il y avait des types qui s'occupaient des laundries, des blanchisseries, il y avait des types qui s'occupaient des speakeasy, des bars, il y avait des types qui s'occupaient des boulangeries, et chacun faisait son boulot, mais c'était pour le compte de la mafia. Eh bien, dans ce système de la mafia, il y a des types qui contrôlent la franc-maçonnerie, il y a des types, des mafieux qui contrôlent les associations d'élus, il y a des types qui contrôlent les banques, il y a des types qui contrôlent les instituts de sondage et qui obéissent aux mots d'ordre qui leur sont donnés par leurs chefs.
Il faut
reste à identifier les chefs, et là, je vais faire en conjecture.
Il faut que je corrige mon propos en signalant que nous ne sommes pas encore totalement jusqu'aux oreilles dans une société totalitaire et qu'il existe des conséquences commerciales assez pratique. Les journaux qui publient depuis des années, des décennies, ces sondages, en les approuvant, les renforçant, ils plongent. Libération est en train de crever et aux surprises...
Mais le système le sauve
de pub. Et aux surprises, les banques...
Ils vivent des mêmes, ils vivent de pub. Ils vivent pas des abonnés.
Non mais il est tout à fait certain qu'en France, les échecs intellectuels, moraux, devraient se payer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est en effet parce que le système est totalitaire. Il est clair, par exemple, que l'ingénieur, je pense, ou l'architecte qui a construit le barrage de Malpasset, je crois, qui s'est effondré à Fréjus il y a 40 ans à peu près, entraînant dans la mort 500 personnes, on ne lui a certainement pas redonné d'autres barrages à construire. Bon, en dépit du fait qu'après tout, ce n'était peut-être pas les fautes de conception qui étaient à l'origine de ce drame. Mais là, il y a au moins une sanction implicite, professionnelle, immédiate. Tandis que dans le domaine des sondages, mais pas seulement dans le domaine des sondages, dans le domaine politique, les Français sont dirigés depuis 40 ans par deux partis politiques qui alternent au pouvoir, qui placent dans
tous les rouages de l'État, de la société politique, économique et médiatique leurs obligés. Les Français zappent de l'un à l'autre et ont bien quand même perçu que dans un cas comme dans l'autre, c'était l'échec. C'était au mieux la gestion de la décadence de leur pays. Eh bien, un certain nombre d'entre eux persistent à croire que la prochaine fois, ce sera mieux. Et quand il y a des idées comme celles, comme les nôtres, ou celles que défend aussi, après tout, Philippe de Villiers, bien sûr, Bruno Maigret et d'autres comme cela, eh bien, qui sont portées par nous, un certain nombre de personnes un peu frileuses se prennent à rêver que ça soit porté par d'autres, par ceux qui ont fait le contraire pendant des décennies. Et on voit maintenant, par exemple, certains Français, pas tous heureusement, qui mettent leurs espoirs dans la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy, qui est l'homme qui a fait abroger l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers. Il y a 2 ans, j'étais là, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Mais il faut espérer quand même que les fautes morales se paieront un jour. Et en particulier, c'est vrai, ces instituts de sondage devraient être définitivement déconsidérés, c'est clair.
Voilà, je vous remercie, Bruno.
Il y a encore une question. Peut-être, oui, une dernière question. Monsieur, les suite aux déclarations que vous venez de faire sur la place des gens d'origine étrangère au Front National, je voudrais vous exprimer une question. Je suis né à l'étranger, j'ai 36 ans, j'habite depuis 12 ans en France, pays que j'adore, et pour lequel je serais même prêt à me battre si besoin pour qu'il reste ce qu'il doit être. Bon, ai-je une place au Front National? C'est une question de Monsieur Gutiérrez et Trimino. Alors je dis à Monsieur Diego Gutiérrez qu'il a bien sûr une place au Front National. Alors de deux choses l'une, où il a, je suppose qu'il est d'origine espagnole, on peut le penser. Bon, alors je lui dis de deux choses l'une, où il a conservé, ce qui est parfaitement honorable, la nationalité espagnole, il fait partie des étrangers qui aiment la France, qui respectent ses lois, qui sont nos autres, et il n'y a pas de problème à cet égard, notamment avec à l'égard de nos hôtes ressortissants de pays européens. À ce moment-là, il peut entrer dans l'association que nous avons formée des amis du Front National qui sont de nationalité étrangère. Ou bien Monsieur Gutiérrez a acquis la nationalité française, auquel cas nous le considérons fraternellement comme un des nôtres et il peut rejoindre les rangs du Front National absolument sans problème.
Vous lui avez répondu franco.
Voilà.
Serge, un auditeur qui signe Vieux Grizzly,
oui,
vous envoie la recette pour Serge Lemekelch qui n'arrête pas de tousser, ci-dessous, la recette du grog. Et il conclut enfin, que fait Madame de Bekelch? C'est
elle
un scandale.
Elle m'interdit de boire de l'alcool, comment voulez-vous que je me soigne avec du grog?
Alors j'ai aussi c'est même pas une question, s'il y a quand une émission pour la Corée du Nord, c'est le reste je ne vais pas le lire parce que
parce c'est rédigé pas le temps
en des termes injurieux, voilà, c'est parce que j'ai pris la défense d'un certain nombre d'inculpés serbes devant le tribunal pénal international de La Haye. Je maintiens intégralement.
Bravo.
On ne peut pas réduire la question nationale serbe à la question de la survivance du communisme dans ce pays. Et je le dis d'autant plus que j'ai été un défenseur à l'époque de l'indépendance de la Croatie.
Merci Bruno Golnisch.
Merci à vous.
Je dirais vive la Serbie, monsieur.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekelch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 janvier 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative.